En fait, j'en ai eu marre de vivre dans la honte. Être une femme désirante, il fallait qu'on en soit fière en tant que femme. Pense à toi, pense à ton plaisir.
Sexe, podcast érotique et pornographie, c'est ce qui est au programme de ce nouvel épisode d'InPower.
Tu te maries alors que tu sais que ça bat déjà de l'aile.
Pendant les préparatifs du mariage, je m'en rends compte que ça va pas le faire. Mon mariage s'effondre, je découvre les applications de rencontre. Et je me mets en fait à faire des vidéos de moi, des photos de moi. Ces contenus, ils sont bien et ça mérite que je les montre à un plus grand public. Je me dis, j'ai un vrai truc à faire sur la sexualité.
On parle de sexe, oui, mais pas n'importe comment. Ou plutôt, pas avec n'importe qui. J'accueille Olympe de G, autrice et réalisatrice de films porno féministes.
L'industrie du porno mainstream, ça fait pas du bien. Ok, faire du porno, on en est où? Est-ce que ça existe le porno féministe? Il y a un truc à proposer là. Je décide de performer. J'ai le cœur qui bat la chamane. Honnêtement, j'ai les mains comme ça parce que c'est ultra difficile. Tu te mets au centre de l'attention. Et du coup, tu vois, le moment de tourner la scène, franchement, j'en ai pas envie.
Peut-on réinventer le porno? Comment réussir son éducation sexuelle? Comment dépasser les tabous et les clichés liés à la sexualité?
Je voyais vraiment en fait la séduction masculine comme une prédation. Et j'étais pas une bonne proie. Ok, c'est moi qui vais chasser. Et je trouvais ça excitant.
T'as déjà eu le cœur brisé?
Ah
Tant. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Olympe de G. Bonjour Olympe.
Bonjour.
Bienvenue sur InPower.
Merci.
Je vais faire un petit big up à Grégory Pouy. Qui m'a parlé de toi, qui nous a mis en relation. Et ça m'a fait rire parce que du coup, je lui parlais hier pour qu'il me donne un peu peut-être des anecdotes croustillantes sur toi. Et il m'a dit, écoute, Olympe, du coup, il y a encore quelques années, c'était une diplômée de l'école du Louvre, maquée, en tout bien tout honneur. Et puis, elle est restée mariée genre un mois. Et après, elle a décidé de faire du porno féministe. Et je me suis dit, c'est très intéressant de te présenter comme ça. Mais là, c'est moi qui prends les devants. Normalement, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Bah, écoute, je suis Olympe de G. Je suis autrice et réalisatrice. De porno féministe, effectivement, et puis plus largement de contenu féministe, ouais, engagé, je dirais, sur le féminisme et la sexualité principalement.
D'accord.
Voilà. Même si j'élargis un petit peu ces derniers temps, je m'intéresse... En fait, ces dernières années, je me suis beaucoup intéressée à la thématique du consentement suite à divers événements dans ma vie. Et ça m'a emmenée aussi vers d'autres champs, le champ médical, par exemple, sur les violences obstétricales et gynécologiques. Voilà, les problématiques, on va dire, du corps, de l'intime.
Mmh. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a tout d'abord amené sur cette voie? Parce que, tu vois, je me mets dans ta peau, une étudiante qui sort voilà, d'une grande école d'art, promise à un avenir rangé. Qu'est-ce qui fait que tu choisis vraiment, c'est même pas de faire un pas de côté là, mais c'est de prendre une autre route. C'est de prendre, en plus, dans un milieu qui est de l'extérieur quand même perçu un peu comme vulgaire, j'ai envie de dire.
Alors c'est marrant, alors moi j'ai toujours eu beaucoup de mal en fait à déterminer ce qui est vulgaire ou pas. C'est vraiment en fait une grille de lecture qui n'existe pas pour moi. Donc j'ai pas cette perception là. Pour moi c'était juste iconoclaste. Je pense. Et c'est arrivé à un moment de ma vie. En fait, il y a eu deux réflexions. Il y a une réflexion très perso, enfin, vraiment, en fait, là, un truc assez des tripes, quoi. Et de l'autre côté, une réflexion plus créative. Alors, d'abord, je te fais le versant perso. Côté perso, en fait, à 33 ans, donc, j'ai ce mariage avec quelqu'un avec qui je suis depuis 5 ans, donc j'étais extrêmement amoureuse. Qui explose, on se marie, déjà ça va pas entre nous, et puis voilà, là le truc explose.
Est-ce que je peux me permettre de t'arrêter?
Bien sûr.
Parce que c'est un vrai truc. Je sais que t'es pas la seule. Alors si je comprends bien, c'est tu te maries alors que tu sais que ça bat déjà de l'aile.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que tu acceptes de te marier avec quelqu'un quand tu sais que ça pue la fin?
Alors déjà c'est moi qui veux me marier.
Ouais, ok.
Faut le savoir.
Ouais, hyper intéressant. Et pourquoi? T'arrives à le conscientiser?
Je suis donc extrêmement amoureuse de cet homme. Notre histoire, elle a déjà commencé sur des bases compliquées parce qu'il me quitte genre tous les 3 mois. La première année, ça enclenche ce truc un peu toxique de je sais pas, c'est lui qui me faut, quoi, c'est lui qui me faut. Et donc bon, bref, déjà notre relation elle commence comme ça. En fait, il me recontacte après une énième rupture et il veut s'engager, tu vois. Donc on prend un appart ensemble et on décide de se marier. Et c'est pendant les travaux dans l'appart et pendant les préparatifs du mariage que je m'en rends compte que ça va pas le faire. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il s'engage pas dans la vie intime, dans la vie de couple, quoi. Comme beaucoup de mecs, c'est en fait ses priorités, elles sont ailleurs, elles sont dans la carrière, En plus, il est en binôme dans le boulot avec son meilleur pote. Donc, ils sont hyper fusionnels. Donc, en fait, limite, son partenaire de vie, c'est ce mec-là. Bon, ça, je le savais déjà, mais là, je le ressens encore plus maintenant qu'on a une vie à deux. Et en fait, pour te donner des exemples, dans l'appart, c'est moi qui imagine tout, tu vois, dedans, la déco, etc. Lui, il est là, ouais, ok, tu sais, un peu
passif.
Dire de création du truc, tu vois, tu lui proposes des trucs, il est là, ouais, j'aime bien. Tu vois. Mais moi, j'y trouve mon compte parce que ça m'amuse de le faire, tu vois, sur le moment. Et puis, le mariage, idem, je suis quelqu'un d'assez créatif, donc j'ai plein d'idées, etc. Et je me retrouve à gérer ça avec sa mère. Et on cofinance 50-50, sa mère et moi, tu vois. Et en fait, lui, c'est comme s'il était un peu le touriste de tout ça, tu vois. Et donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai du mal à le conscientiser avec mon cerveau, et c'est mon corps qui prend le relais. J'ai constamment mal au ventre, vraiment, tu sais, on dit que les intestins, c'est le deuxième cerveau. Bah là, c'est vraiment ça, en fait, j'ai constamment mal au ventre, je perds vachement de poids. Et autre chose se passe, j'ai une espèce de réveil de la libido de dingue, libido un peu endormie par les années en couple. Bah, en fait, je commence à avoir des aventures à côté. Pendant que je suis fiancée et que je prépare mon mariage. Voilà, au point où, tu vois, je me barre faire un week-end avec un mec qui habite à Moscou, on se retrouve à Hambourg, enfin des trucs, tu vois, voilà, n'importe quoi. Et je me rassure un peu en me disant « Ah, mais c'est rock'n'roll ». Enfin, tu vois, un peu n'importe quoi. Et puis, bah voilà, on se marie quand même.
Donc tu lui dis pas, évidemment.
Si, en fait, ce qui se passe... C'est un peu confus, parce que ça remonte à loin. Mais en fait, à un moment, on a une conversation, lui et moi, où je lui demande s'il est OK pour qu'on ouvre notre couple. Je l'ai déjà trompé une fois à ce moment-là, mais c'est avant la rencontre avec le Russe. Il me dit « Ouais, OK ». Et en fait, j'apprendrai après que lui aussi m'a déjà trompé. Ouais. J'aime pas ce mot, en fait. Lui aussi a déjà eu des aventures en dehors de notre couple. Et il me dit « Ouais, OK ». Mais en fait, apparemment, il n'était pas OK pour que ça se passe pendant qu'on était fiancés.
Déjà, le fait que tu n'aimes pas le terme « trompé », c'est pourquoi ? Parce que pour toi, tu n'es plus dans un rapport d'exclusivité. Pourquoi ce terme te dérange ?
Il est lourd de jugement moral. Et pour moi, il est chargé patriarcalement aussi, tu vois. Je sais pas, ça me renvoie un peu à la morale bourgeoise du 19e. Mmh. Et sachant que j'avais vécu un truc avec mon ex-mari, à l'époque où je m'étais rendu compte déjà que l'exclusivité sexuelle, je m'en foutais un peu, en fait. Si tu veux, je te raconte.
Ouais. C'est... Dis-moi tout.
Je pars en week-end avec ma mère et ma sœur. Et on va faire une thalasso toutes les trois.
Et donc là, t'es mariée ?
Non.
Non.
On vit ensemble. Et je reviens, 3-4 jours, tu vois, on était à faire du spa et tout, trop bien. C'était la première fois qu'on faisait ça. Vraiment un beau moment entre femmes. Et je reviens et je savais que mon ex-mari avait fait la fête avec ses potes. Enfin, que j'étais pas là, voilà. Je reviens le soir et puis, bah, tu vois, il y a une montagne de linge sale qui était là avant mon départ, hein, c'est pas lui, mais dans la salle de bain. Et je commence à, tu vois, vouloir faire une machine. Et là, je tombe au milieu du linge sale sur une culotte qui m'appartient vraiment pas. Et trempée, mais tu vois, enfin, comme si elle avait été passée sous l'eau. Donc, tu vois, un truc assez récent, quoi. Et voilà, il y a ça au milieu de, tu vois, du linge sale. Donc, bon.
c'est quand même assez explicite, quoi.
Ouais, donc je sors, je fais, mais c'est quoi cette... Enfin, tu vois, c'est quoi cette culotte vraiment interdite, quoi. Je suis interdite. Il me fait, non, mais tu vois, je le vois devenir livide. Il appelle son pote. Il fait, non, mais écoute, mon pote va te confirmer. C'est pas moi, c'est lui. Il a ramené une meuf et ils ont baisé dans la douche. C'est pour ça et tout. Bon. Et tu sais, j'étais là, mais qu'est-ce que tu veux me prouver avec ton pote, en fait ? Ton pote, bien sûr que si tu l'appelles avec cette voix-là en disant, tu peux dire à Olympe que, bien sûr qu'il va te soutenir. Donc, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire sur ce truc. J'ai jamais trop cru sa version. Je n'en ai pas reparlé depuis. Mais en fait, il y a un truc en moi qui s'est passé d'assez fort, où je me suis dit, bon, les chances qu'il mente en ce moment précis sont extrêmement élevées. Je les estime à 95%.
C'est précis.
Et en même temps, je me dis que ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qui est important pour moi. Voilà. En fait, je ne me suis pas sentie trahie. Alors que tu vois, c'était chez moi. Enfin, je ne sais pas.
Et est-ce que tu penses que c'est parce que c'était lui en face ou ça s'est avéré vrai dans la suite de tes relations ?
Non, je pense que c'est parce que c'était lui en face. Parce que par la suite, je me suis sentie extrêmement trahie, tu vois, par des personnes avec qui j'étais pas forcément en relation. Tu vois, deux amis qui ont décidé de coucher ensemble, dans mon lit, alors qu'ils gardaient mon chat. Enfin, bon, bref. Une autre situation qui m'a heurtée. Donc, ouais, finalement, la blessure liée à l'intimité que quelqu'un dont t'es proche peut développer, je trouve qu'elle est très fluctuante. En tout cas, ce cas-là, je sais que ça m'a pas dérangée, je me le suis dit. Je l'ai pas dit.
Ouais.
Mais moi, je me suis dit, franchement, j'ai pas envie de mettre fin à notre histoire pour un principe moral, puisque là, je me sens pas mise en danger, en fait.
Et qu'est-ce qui fait alors que, quelques mois plus tard, tu décides, si c'est toi qui décides, de le quitter ?
C'est pas moi qui décide.
Ok.
C'est pas moi qui décide, le truc se passe vraiment, là on revient vraiment à des trucs conjugaux relous. Donc moi j'ai cette aventure avec mon corps s'est réveillé, j'ai la libido à donf, je suis à ce moment-là en déplacement professionnel aux États-Unis, je travaille avec un russe, on commence à nouer un truc, vraiment voilà, je suis un peu en feu à ce moment-là. Il se trouve que ce russe, il est avec une meuf et que sa meuf, quand il rentre des États-Unis, fouille dans son téléphone, trouve mon nom, voit que je suis avec un mec et elle le contacte sur LinkedIn pour lui dire voilà, est-ce que.
Ah ouais, voilà. T'es au courant que ouais, te trompe.
Voilà, à ce moment-là, on est mariés, donc mon mari, on était déjà en pause. Hein. Parce que le mariage avait été vraiment difficile. Donc on était déjà un peu en break, ça allait, on était clairement sur le chemin de la séparation, mais donc le truc arrive à ce moment-là, et lui a un truc de fierté énorme, alors qu'on était d'accord hein, sur le fait qu'on avait une relation ouverte à ce moment-là, mais lui a un truc de fierté énorme, il se dit, mais pendant les préparatifs du mariage, pour moi c'était un moment un peu sacré, c'est pas religieux, mais enfin juste pour lui c'était un moment important, mais je te dis, enfin en quoi c'est un moment important, je me suis occupée de tout, enfin arrête, enfin bon bref.
Là, t'es pas sur la même longueur d'onde.
Du tout, du tout.
Mmh. Voilà. Est-ce que tu le vis comme un échec?
Non.
Ok.
Absolument pas. Parfois les réactions que me renvoient les gens me rappellent que ça peut être perçu comme ça, mais non, non, pas du tout. Au contraire, je trouve qu'on a été courageux de se séparer un mois après le mariage, parce que tu vois, t'as quand même tous tes potes qui sont venus de toute la France, qui t'ont fait des cadeaux. Donc ouais, je trouve qu'on a été courageux, et en plus pour moi, je crois que dans ce mariage se jouait quelque chose qui n'avait rien à voir avec mon couple. Il s'est joué le fait que mon père et ma mère se sont revus, et donc ça c'était un truc qui s'était pas vu depuis mes 10 ans, 11 ans, non, 13 ans. Ils étaient très fâchés. Et c'était un truc qui pesait lourd dans ma vie. Et là, ils se sont revus pour mon mariage. Donc,
ça n'a pas été inutile.
Ça m'a servi à ça.
Ouais. Est-ce qu'avec le recul, tu comprends d'où est venu ce réveil de libido?
Bah, c'est un truc, je pense, à la fois de... Je vais dire d'escape. Tu vois, vraiment de... Tu vois, exit.
Ouais.
Il y a un côté, quand je te dis, le corps a décidé pour moi. C'est, il m'a sorti de la, de, il m'a un peu sorti de la situation. Il y a aussi, je pense, un truc. J'étais plus jeune et je pense que moi j'ai toujours eu des cycles de libido qui ont des gros hauts et des gros bas. Et le couple, moi, me coupe la libido. Voilà, c'est comme ça. Après, bah, tu vois, il y a plusieurs solutions. Soit t'acceptes d'avoir une sexualité vachement plus rare quantitativement. Soit t'acceptes d'ouvrir la relation. Enfin, il y a des, mais moi, en tout cas, la monogamie, ça me ça me castre un peu, quoi.
Ouais, mais c'est, voilà. Je trouve ça très rafraîchissant que tu nous partages ça, et ça renvoie aussi non seulement à une connaissance de soi, mais à une acceptation de son fonctionnement. C'est-à-dire qu'on pourrait aller à l'encontre de ça par des principes sociétaux, et toi, tu choisis de t'écouter et...
Ah, mais j'ai grave lutté, hein. Franchement, j'ai beaucoup culpabilisé. En plus, dans les couples hétéros, j'ai souvent dû porter la responsabilité de l'effondrement de ma libido, alors que c'est quand même des dynamiques aussi... Enfin, moi, je sais que j'ai cette tendance-là. Je dis pas que, tu vois, elle pourrait pas être un petit peu lissée par le... Enfin, en tout cas, elle était clairement empirée par le fait d'avoir des partenaires sexuels qui étaient pas forcément à l'écoute, tu vois, qui faisaient pas les trucs que j'aimais, ou clairement, j'ai pu développer carrément une aversion au sexe, hein, à certains moments, avec certaines personnes. Il y a ça, mais ça m'a pris vachement de temps. Enfin, faut pas... voilà, je me suis sentie très coupable de déconnecter comme ça sexuellement de mes partenaires pendant longtemps. Tu vois, on parle beaucoup de déconstruction, etc. Et bah, c'est tout ce process-là de déconstruction, de se dire, OK, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'injonction sociale, qu'est-ce qui est... Mais aussi, après, de reconstruction, en se disant, bah, qui je suis? De quoi j'ai envie? Si je sors de l'équation la compagne que j'ai envie d'être, la femme que j'aimerais être, que j'aimerais pouvoir raconter à mes amis, etc., qui je suis, de quoi j'ai vraiment envie. Mais c'est hyper long, hein. J'ai 40 ans et je commence à peine à toucher un petit peu ce truc-là, quoi.
En fait, c'est très difficile. Je me demande à titre personnel à quel point on peut réussir à s'extraire du conditionnement. Parce que nos désirs, et je me rends compte de plus en plus en changeant ce que je regarde, sont vachement conditionnés par ce que l'on voit, donc par ce que l'on nous montre. Et du coup, tu vois, quand tu dis qui on est, ben, à quel point qui on est dépend aussi de cette construction-là, de ce qu'on a appris à aimer. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, au lieu de le voir, avant je voyais ça un peu comme une déconstruction où on enlevait, tu vois, les couches de l'oignon. De plus en plus, je me rends compte qu'on est genre un noyau, enfin tu vois, naked, nu, et en fait, qu'on vient un peu, on vient rajouter des couches au fur et à mesure de notre construction, mais que je vois finalement comme un processus tout au cours d'une vie qui évolue. Mmh, absolument. Parce que finalement, si on enlève toutes les couches, j'ai envie de dire, il reste rien. Enfin, à part notre désir primitif, voilà, on veut s'accoupler, ok. mais les fantasmes, etc., bah, ils vont naître de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Et donc, je vois vraiment plus ça maintenant comme une évolution sur laquelle on a un pouvoir. Et c'est ça que je trouve ça hyper rafraîchissant. C'est qu'avant, moi, j'étais persuadée, genre, je disais à qui voulait entendre que j'avais un genre de mec. Enfin, tu vois, c'est vrai que historiquement, j'avais toujours le même type de mec qui m'attirait. Et en fait, de là changer ce que je regarde et même les personnes que je rencontre, ça joue énormément sur le changement de mes désirs. Et j'ai trouvé ça fascinant. Tu vois, j'étais persuadée que genre j'étais d'une certaine manière, mais ce qui était hyper essentialiste, alors qu'au fond, on est des animaux sociaux, quoi.
Ouais. Et puis en plus. Enfin, je sais pas, je pense qu'on a tendance à penser que ce qui relève de l'intime et notamment du sexuel est quelque chose de naturel et pas de culturel, alors que c'est tellement culturel la sexualité. On ne pense pas assez, ou en tout cas on ne les pense pas assez publiquement ces sujets. Ce qui fait qu'on voilà, on a l'impression que c'est juste de la pulsion, que c'est effectivement comme un, tu sais, un caillou dans le cerveau qu'on ne peut pas changer. Moi j'ai tendance à regarder ça un petit peu, c'est comme la, tu vois, quand on parle de déconstruction sur les désirs qu'on a pu avoir et puis je sais pas, enfin notre évolution. Je regarde un peu ça comme, tu vois, comme la santé mentale. Alors je vais faire une comparaison entre être quelqu'un d'anxieux et avoir été une jeune femme avec un schéma très hétéronormé de relations. Vouloir un mec protecteur, etc. Tu peux regarder passer ton anxiété. Tu peux noter, ok, là, je suis anxieuse. Voilà, j'observe que j'ai cet état-là. Il va passer. Et je trouve qu'en fait, vis-à-vis de comment dire, la façon dont on a été formaté, on peut aussi faire ça. En fait, on peut regarder nos vieux réflexes, être présent, les noter, tu vois, pas se blâmer et se dire, ok, bon, bah voilà, là, j'ai une attirance pour ce mec qui joue le rôle du mâle alpha. Tu vois, c'est comme ça. Je sais que c'est pas en harmonie avec ce que je souhaite d'un partenariat amoureux avec un homme, mais voilà, il se passe ça, mon corps réagit, ok, très bien, je note. Et c'est tout, et laissez passer, quoi. Parce qu'on peut pas être tout le temps des êtres de cohérence et de...
Ouais, c'est hyper puissant ce que tu partages, et je trouve que c'est le principe même de la déconstruction. Et parfois, il y a des filles qui m'écrivent, alors tu vois, c'est plus par rapport au rapport au corps, et qui s'en veulent d'avoir encore des réflexes, par exemple. J'y pense parce que hier, je faisais donc ce bar à culottes, et donc il y a une cis qui vient me voir et qui me dit « Ah, j'ai pensé à toi hier soir, j'étais en boîte, et en fait, j'avais une robe moulante et je commence à rentrer le ventre, parce que, ben, conditionné à rentrer le ventre. Et en fait, je commence à réaliser ce que je fais. Et plutôt que de me juger, je me suis dit, bah non, mais en fait, je m'en fous. Enfin, je suis pas mieux parce que je rentre le ventre ou pas. J'ai juste envie là de kiffer et de danser sans me prendre la tête. Et je lui dis, mais bravo. Et en fait, c'est ça la déconstruction. C'est pas ne même plus jamais rentrer le ventre. Et genre, c'est un automatisme. C'est prendre conscience qu'on a encore des réflexes, les observer, choisir ou non de les cesser, mais en tout cas, le faire en conscience.
Tout à fait.
Et je partage vraiment ça pour rassurer les gens parce qu'on a l'impression que s'aimer, ça peut se faire du jour au lendemain. C'est genre, on se regarde dans la glace et ça y est, on se trouve trop bonne, on voit plus jamais nos défauts et tout. Non, c'est les voir, mais choisir d'en avoir rien à foutre.
C'est ce que tu partageais récemment sur le fait d'être body neutral versus body positif, c'est
ça ? Ouais, tout à fait. C'est ne plus apporter de jugement, tout simplement moral, comme on disait, sur son corps. Et je trouve que ça libère d'un poids énorme parce que finalement, l'injonction à aimer son corps peut être parfois tout aussi difficile que de supporter le fait de ne pas s'aimer. Et donc, en fait, pour moi, simplement se dire, mais en fait, qui a décrété qu'on devait aimer ou non son apparence physique ? De toute façon, tu l'as pas choisi. Autant simplement vivre avec. Et je trouve que le parallèle avec les personnes qu'on aime est assez facile à faire. C'est-à-dire qu'on aime nos frères, nos sœurs, nos parents, tout ça, pour qui ils sont et pas ce à quoi ils ressemblent. Donc, commençons à se considérer pour qui on est et pas pour ce à quoi on ressemble.
En fait, je me dis de plus en plus ces derniers temps qu'il y a une facette du féminisme qui vraiment que je ne veux pas embrasser, qui est un féminisme qui remplacerait les injonctions patriarcales par des injonctions féministes. Et ça, en fait, je me suis dit, ça, c'est du féminisme paternaliste. En fait, on est en train de pour libérer les femmes, de leur dire ce qu'elles devraient faire de leur corps. Alors moi, cette analogie m'est venue sur le travail du sexe, parce que tu sais que dans le féminisme, y a... on va dire deux courants qui s'écharpent graves, qui est le courant abolitionniste, qui est contre la pornographie et la prostitution, et le courant qu'on appelle sexe positive, qui pense que les femmes font bien ce qu'elles veulent de leur corps. Je me disais, c'est quand même hyper paternaliste quand t'es une femme, que t'es féministe, et que tu vas expliquer à des femmes qui... Là, on parle vraiment de prostitution choisie, bien évidemment, qui ont décidé d'embrasser tel ou tel métier, telle ou telle carrière, leur dire « Mais non, mais en fait, tu te rends pas compte, t'es une victime, ce que tu fais, c'est pas bien pour toi. » Mais ça, c'est vraiment du paternalisme. Et en fait, J'ai élargi ça plus globalement à bah, tu vois, les injonctions autour de la sexualité. Moi, je trouve que, en fait, il y a eu toute une époque où sur les réseaux sociaux, je faisais vraiment du prosélytisme, pro-masturbation, genre les meufs, masturbons-nous, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, etc. Et puis, au bout de plusieurs années, je me suis dit, mais lâche un peu la grappe des gens, quoi. Enfin, tu vois, enfin, moi, il y a des moments où j'ai zéro envie de me masturber pendant 6 mois. Enfin, ok, quoi. C'est... Voilà, mollo.
Ne remplaçons pas une injonction par une autre injonction.
Ouais, ouais. Et ça m'a pris un petit peu de temps parce que t'es tellement, quand tu te lances dans la lutte féministe, t'es là, mais regardez, et puis moi j'ai fait ça, et ça m'a tellement apporté. T'as envie de convaincre, et puis il suffit que tu passes à une autre phase de ta vie pour que tu dises non, mais enfin, vas-y, laisse les gens tranquilles en fait. Suggère, invite, ne donne pas l'impression d'avoir trouvé le chemin qu'il faut emprunter, quoi.
T'as échangé avec des abolitionnistes ?
Ouais, alors un peu à mon corps défendant. J'étais... Parce que, alors, moi, je suis quelqu'un d'assez ermite, donc déjà, j'ai un réseau très petit. J'ai peu d'amis, voilà, mais ils sont très intimes. Et ce qui fait que, bah, forcément, dans ce petit réseau, je m'entoure pas de gens avec qui je peux potentiellement entrer en conflit. Mais j'ai été invitée sur France Inter et je me suis retrouvée donc face à quelqu'un qui était anti-porno pour un débat animé par Nadia Dame. Et j'avais beaucoup travaillé pour ce débat, j'avais préparé pendant 3 semaines, pendant mes vacances, etc. Mais en fait, j'avais pas regardé trop le discours adverse, tu vois, un peu erreur de débutante. Et j'étais vraiment choquée, et je suis restée un peu comme 2 ronds de flanc face à la violence du... Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti comme une violence du discours en face. C'est-à-dire que je me suis retrouvée face à une... La porte-parole, c'était quoi son assaut ? C'était Céline Pic, Oser le féminisme, peut-être ? En tout cas, Céline Pic. Et qui m'explique, enfin oui, qui a expliqué, non pas à moi, mais qui explique que le porno est du viol tarifé. C'était l'expression, c'était le voilà, un peu la baseline de leur campagne anti-porno. Mais du coup, ce que moi ça me renvoyait, c'était que elle savait mieux que moi que j'avais, en fait, là pour le coup l'expression, je m'étais fait violer. C'est-à-dire que j'avais décidé de me faire violer en faisant du porno, quoi. Et bah, c'est ultra violent de dire ça.
Mais c'est ultra violent, femme.
Et puis, c'est, enfin, n'importe en qui, fait, d'ailleurs.
Comment peut-elle t'opposer ? Enfin, si toi, tu lui as répondu dans ce sens-là, mais si tu lui réponds, écoute, moi, je l'ai fait consciemment pour justement changer l'imaginaire, comment peux-tu, toi, me dire que je me suis violée, quoi ? Enfin, je vois pas ce qu'on peut rétorquer à ça. J'ai l'impression que, tu sais, c'est un peu... Parfois, quand on parle à des hommes du sexisme et qu'ils pensent mieux savoir que toi ce que tu as vécu, t'es là, mais en fait, tu ne l'as pas vécu. Donc,
non, mais c'est exactement ça, c'est le paternalisme. Tu parles pas le même langage, donc t'arrives pas à trouver terrain d'entente. C'est-à-dire qu'elle, elle déploie des principes moraux et généralisateurs. Donc elle, son argument, c'était, ouais, d'accord, avec ton porno éthique et féministe, t'es l'arbre qui cache la forêt, et du coup, tu rends légitime toute une industrie du porno mainstream qui, elle, marchandise les femmes, etc. Voilà, c'était ça, et bah, c'est vrai qu'on est très, très peu nombreuses à proposer du porno féministe. Mais enfin, moi, je reste quand même quelqu'un de fondamentalement de gauche et fondamentalement progressiste, et je ne crois pas que la coercition, que l'interdiction apporte quoi que ce soit. Donc même si on, même si on a un constat commun sur lequel bon, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on peut se dire, avec Céline Pic, on a un constat commun qui est l'industrie du porno mainstream, ça fait pas du bien, ça fait pas du bien aux gens qui y travaillent, et ça fait pas du bien aux gens qui regardent. Voilà. Bon, ça, on est à peu près d'accord sur le constat. Mais après, c'est vrai que les stratégies employées et les mots aussi employés, le discours, le ton du discours est pas du tout le même, parce que elle prône une interdiction, vraiment une prohibition. Et moi, je dis non, plutôt encadrons mieux. Et du coup, les personnes qui vont être exposées au porno jeunes, enfin les enfants, du coup. Voilà, c'est deux écoles. Et c'est vrai que moi, quand je parle de mon aventure intime et de ce que ça m'a apporté et de mes convictions, je peux pas me mettre sur le même niveau de discours que elle qui a des principes, enfin tu vois, qui parle, ouais, des principes généraux, quoi.
Et est-ce que quand tu as commencé dans cette industrie, tu es directement allé dans le porno féministe ou tu es passé par le porno mainstream ?
Alors non, et du coup je ne peux pas du tout parler d'industrie. Le porno éthique et féministe, c'est vraiment tout petit machin. Il y a peut-être Erika Lust. Il y a la scène américaine que je connais moins, mais en tout cas, en Europe, il y a Erika Lust qui est, je pense, honnêtement, la seule personne qui arrive, qui en a fait un business, qui en vit bien, qui a une entreprise qui fonctionne avec, tu vois, là, une PME, quoi. Sinon, on est des artisans et des artisanes, d'ailleurs plutôt des artisanes de ça, tu vois. La plupart, moi, j'ai toujours fait ça de façon engagée, du coup, bah, mathématiquement bénévole. Enfin, j'ai gagné de l'argent, mais j'en ai toujours aussi plus dépensé. Donc, bref, voilà, j'ai jamais gagné ma vie avec ça. Donc, on peut pas parler d'industrie. On va plutôt parler, ouais, de scène, d'artisanat.
Donc,
Moi, je suis pas du tout passée. Quand j'ai décidé de faire du porno, donc après l'effondrement de mon mariage, donc je t'ai pas raconté les raisons, du coup.
Oui, dis-moi tout, on y revient.
Alors, donc, double raison. Mon mariage s'effondre. je découvre les applications de rencontre. Et je découvre, bah, tu vois, ça faisait peut-être 5-6 ans qu'on était ensemble, donc il n'y avait pas encore, moi, l'étape d'avant, c'était, j'avais été sur Mythic, tu vois, avant de le rencontrer. Donc là, il y a les applis, il y a Tinder et tout. Et bah, tu vois, je me mets dessus, gros fun et tout, et en plus, je match, bah, notamment quand je suis aux États-Unis avec des gens qui habitent loin. Ce qui fait qu'en fait, je commence à avoir des amants, mais dans plusieurs pays. Donc il y avait le russe, on est gardé un peu contact, j'avais aussi un Australien, mais qui était à Londres, un Allemand, voilà. Et ce qui est top avec ces relations-là, c'est que c'est des relations qui sont beaucoup à distance, et finalement c'est un truc qui me faut à ce moment-là et qui sont beaucoup dans l'échange de sexto. Et je découvre ça, en fait j'avais jamais échangé de sexto avant, et là j'ai une espèce avec ma libido qui a explosé, j'ai aussi la créativité qui est au top, et je me mets en fait à faire des vidéos de moi, des photos de moi, je fais des chansons je fais des poèmes, enfin, je dessine, je déploie, mais vraiment tout un truc autour de mon désir, de ma sexualité. Je mets en scène mon corps. Je sais pas, je suis hyper fière du résultat. Je me dis, putain, c'est cool, tu vois. Et mes amants, bon, c'est un peu des fuckboys, quoi. C'est pas des mecs qui me traitent avec beaucoup de...
considération.
Ouais. C'est pas des relations intéressantes. Ils passent un peu dans ma vie, un peu comme des étoiles filantes, en m'égratignant, pas mal, d'ailleurs. Et je me dis, ce que je fais, là, ça mérite d'être montré à un autre public que ces gars-là. Mais vraiment, mais c'est très bizarre comme pensée. Hein. On parle de... Mais honnêtement, j'avais jamais eu de pensée qu'on pourrait qualifier un peu de mégalo comme ça, tu vois. Mais je me suis dit, honnêtement, ces contenus, ils sont bien et ça mérite que je les montre à un plus grand public. Et c'est comme ça que je me dis, j'ai un vrai truc à faire sur la sexualité. J'ai un vrai truc à exprimer. Ça, c'est la face un petit peu fun. Il y a une autre raison perso qui est que depuis mes 13 ans, je me fais slut-shamer, donc je me fais traiter de salope.
Pourquoi ?
Écoute, c'est assez dingue, parce que j'ai un profil, tu vois là comment je suis habillée, j'ai rarement été habillée très sexy, je suis très introvertie, je suis plutôt très timide. Mais du coup, ma timidité me pousse en fait avec les mecs, dès un très jeune âge, à être ultra cash. Parce que je sais pas faire autrement. Je sais pas envoyer des signaux de séduction. Donc en fait, je vais voir les mecs et je dis, tu veux venir chez moi? Tu vois, non, mais c'est un peu ça. Au lycée, c'était, tu veux aller boire un verre, tu vois, à la cafétéria en face. Mais sinon, c'était vraiment ça. C'est, tu veux coucher avec moi? Tu veux venir chez moi? Genre, je laissais ma clé d'hôtel, tu vois. C'était... Et plus vite on couchait, et moins j'étais stressée, et plus c'était, voilà, plus c'était cool. Je pouvais, enfin voilà, une grande, grande timidité. Et ça, écoute, dès le lycée, ça a été perçu. Il y a une fête. Alors moi, j'ai fait tout mon lycée avec 2 ans d'avance. Ce qui fait que j'avais 13 ans en seconde. Je resitue.
T'as sauté 2 classes.
Ouais, mais toute jeune.
Ok.
Vraiment la maternelle, tu vois. Enfin, en fait, je suis juste rentrée au CP plus tôt. Il n'y a pas eu de « Oh, mais cet enfant est un génie !» Non, il y a eu ma mère qui m'a appris à lire très tôt. Du coup, je m'emmerdais et je dérangeais la classe. Donc, ils m'ont dit « Allez, vas-y. » Et ça a été d'ailleurs compliqué pour moi de suivre avec ces 2 ans d'avance toute ma scolarité. Parce que j'étais en décalage social.
J'imagine.
J'étais pas mature, quoi. Enfin, je suis pas
ouais,
aussi
2 ans,
que les autres.
C'est quand même, ça commence à se ressentir. Hein.
J'étais
ouais.
Déjà d'un naturel timide et introverti. Donc, en fait, je suivais de façon scolaire, mais pas genre la meuf brillante non plus. Hein. J'étais pas du tout première de la classe. J'étais genre top 10, tu vois, mais pas... Et voilà, je suivais, mais en termes de relations sociales, c'était vraiment la cata, quoi.
Ouais.
C'était un peu la souffre-douleur.
La jeune, c'est la cible facile, quoi.
Ah ouais, non, mais attends, ajoute à ça que depuis l'âge de 11 ans, je fais 1m70, que je pesais peut-être 40 kilos à l'époque, donc j'avais une espèce de physique improbable, de grand truc maigre, plate. Enfin, ce qui est terrible, c'est que c'est comme ça que ça marche,
ouais.
C'est comme ça qu'on pense quand on est au collège, et j'étais la cible toute faite, quoi. Enfin,
puis c'est tellement, honnêtement, difficile de se défendre à cet âge-là parce que tu n'as aucune arme. Enfin,
mais laisse tomber.
En plus, c'est les faits de groupe.
T'as trop envie qu'on t'aime. Oui, c'est marrant vos blagues. Suis l'objet.
Qu'est-ce que tu dirais juste avec le recul ouais. On ne sait jamais qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont cet âge-là ou qui ont des enfants qui ont cet âge-là, qui sont peut-être dans la même situation. Qu'est-ce que tu changerais à cette période?
Je crois que j'ai eu un déclic, mais tard, à 25 ans. J'étais toujours dans cette dynamique de j'ai envie que les gens m'aiment. Je sais que je suis un peu, que je peux être perçue comme, différente, c'est pas le bon mot, mais tu vois, je sais que je peux avoir un abord froid alors que je suis pas ça, enfin, voilà, je sais qu'il y a des trucs qui passent pas bien, quoi. Et donc, j'arrive dans cette agence de pub où je bosse à l'époque, et je veux qu'on m'aime. Et ça rate pas, les deux personnes avec qui je travaille de façon rapprochée toute la journée ne m'aiment pas. Enfin, tu vois, vraiment, commence à pas pouvoir me saquer, mais vraiment, vraiment, commence même à ricaner et tout. Évidemment, j'en souffre, j'en parle à une pote. Et elle me dit, non mais tu sais quoi, franchement, arrête, je te connais, arrête de vouloir qu'on t'aime, tu fais ta vie, tu fais plus attention, t'essaies plus de, voilà. Et j'ai suivi ce conseil, et je te jure, la dynamique, elle a changé en une semaine. Et la meuf, en fait, avec qui je bossais, est devenue une super pote, on est toujours potes, en fait. Et je sais pas, il devait y avoir un truc un peu needy de ma part, tu vois. Et donc, pour répondre à ta question, si je devais revenir en arrière, je pense que j'essaierais d'accepter ma solitude, où il faut traverser des moments où voilà, on n'a pas d'amis, on n'a pas... Et de pas essayer de quêter comme ça l'approbation des gens, parce que je pense que ça a vraiment renforcé le côté, harcèlement. Après, un autre truc que je changerais, et qui est... ce serait plus mon assertivité. J'ai découvert le pouvoir assez récemment, mais ça, je pense qu'il faut vraiment de l'âge, mais qui sait, peut-être avec des personnalités précoces. Le fait d'exprimer quand tu trouves que quelque chose ne va pas, c'est un super pouvoir. C'est vraiment un truc... Ça crée pas forcément des conflits, tu vois, indépassables, mais dire là, je trouve que ce que tu dis est méchant. Je trouve, c'est pas un mot que tu peux utiliser au collège, on se moquerait de toi, mais dire là, franchement, t'essaies de me faire du mal et c'est pas ok. Moi, j'ai l'impression d'avoir été plutôt correcte, gentille. En fait, ça a l'air naïf dit comme ça, mais je pense que c'est vraiment un super pouvoir. Et quand t'es témoin aussi, quand t'es témoin de quelque chose de pas ok, ça, je le fais maintenant, c'est nouveau. Ça va faire 3 ans. Je suis témoin de racisme à la poste, tu vois. J'ai le cœur qui bat la chame. Honnêtement, j'ai les mains comme ça parce que c'est ultra difficile. Tu te mets au centre de l'attention. T'es là. Enfin, c'est pas confort du tout.
Speak up.
Ouais, t'aimerais tellement qu'on le fasse pour toi.
Ouais, ouais.
Moi, tu sais, j'ai un trauma d'enfance qui est un trauma sexuel. Et je pense qu'a beaucoup conditionné tout le reste de ma vie, hein, parce que c'est un truc qui est arrivé très tôt. Donc, je suis au collège, je rentre en métro, je suis parisienne. Je rentre en métro, avenue de la République, dans le wagon. Il y a, tu vois, deux arrêts avant ma station. Il y a un monsieur qui me colle, qui est face à moi, mais tu sais, qui me colle. Moi, je suis debout contre le strapontin. Franchement, j'ai 10-11 ans à l'époque. Et en fait, je comprends pas, parce que tu sais, il me regarde un peu intensément. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, je baisse les yeux. Il avait sa teub sortie. Il avait son pénis sorti. Et je comprends pas ce que je vois à ce moment-là, parce que la couleur... Enfin, en fait, j'avais jamais, évidemment, vu un pénis. Et en fait, ce que je vois a une couleur que je comprends pas, c'est un peu violacé, donc je suis pas sûre d'avoir bien vu tout. Bon, bref. Je m'extirpe et puis je remonte la rame pour sortir, tu vois. Et le mec me regarde hyper intensément. Et en fait, ce qui m'a marqué dans ce truc-là, c'est pas d'être tombée sur un exhibitionniste, tu vois. Encore aujourd'hui, je me demande si j'ai vu ce que j'ai vu. Parce que la couleur violacée, tu sais, j'ai vraiment douté. Enfin, je pense que souvent, quand t'es choquée, tu peux douter de la réalité.
Ouais, et
de
puis en plus, tu ne connaissais pas, donc c'est difficile d'identifier.
Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est en fait l'absence de réaction des gens dans la rame. Et c'est ça qui m'a le plus, je pense, traumatisée. Pourquoi personne n'a rien fait? Pourquoi personne n'est intervenu?
Parce que c'était visible, quoi, il n'était pas caché.
J'imagine que oui, si j'ai pensé ça.
Ouais.
Parce que c'était pas, il y avait pas une affluence de dingue. Tu vois, je pense qu'il était à 50 cm de moi. De toute façon, c'est chelou un mec, même si on voyait pas son pénis de l'extérieur, c'est chelou, tu vois.
De coller une fillette, c'est chelou, mais c'est sûr. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point les gens aiment la facilité. Et c'est tellement plus facile de rien dire.
Ouais, et puis tu vois, moi j'essaie toujours d'avoir une interprétation optimiste même des pires réactions des gens. Parce que tu vois, déjà, je suis un petit peu recluse, donc si je commence à perdre complètement foi en l'humanité, je vais plus voir que mon chien. Donc j'essaie vraiment toujours de trouver les trucs plutôt, les interprétations plutôt sympas. Je me suis beaucoup intéressée à l'autodéfense féministe, et il y a un truc qu'on te dit qui est un super bon conseil, c'est que si t'es agressée dans un lieu public, en fait, il y a un effet, quand t'as plein de personnes autour de toi, la responsabilité est comme diluée. C'est-à-dire que personne, tout le monde se dit, quelqu'un d'autre va intervenir qui va être mieux que moi pour gérer. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est alpaguer une personne précisément. Vous avec le manteau vert, vous avec les chaussures truc, aidez-moi. Et en fait, quand tu t'adresses directement à la personne, elle ne peut... Enfin, tu vois, là, tu t'adresses à son humanité. Et bon, bah, après, tu peux toujours tomber sur quelqu'un qui est là, ciao, démerde-toi. mais normalement, là, t'as pas ce phénomène qui est un phénomène social, finalement, de dilution comme ça de la responsabilité en disant non, mais il y a quelqu'un d'autre qui va s'en charger, quoi. Et l'autre truc dont je voulais te parler sur le truc hyper intéressant du rôle du témoin, je m'intéresse aussi beaucoup à qu'est-ce qu'on fait des hommes agresseurs sexuels. Moi, je trouve que c'est vraiment un angle mort du féminisme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'agression, on parle de les reconnaître, etc. On parle pas de... Enfin, si tu veux, il y a un truc qui mathématiquement pour moi est absurde, c'est qu'on se dit, ok, il y a énormément d'hommes qui ont agressé, violé, harcelé, etc. Les pourcentages, on pourrait dire, de un homme sur quatre, un homme sur deux, tu vois, à peu près. C'est les constats qu'on voit circuler, tu vois. Et à côté de ça, on a une approche très carcérale qui est, on envoie tous les agresseurs en prison. Alors moi déjà, je suis déjà allée voir une prison, j'ai été jurée aux assises. Moi je vois pas du tout ce que ça apporte comme solution à la société globalement, la prison, à part pour quelques cas de personnes vraiment, tu vois, sociopathes violentes, etc. Dans le cas des agressions sexuelles, des viols, je vois pas en quoi ça solutionne le problème. Ça le décale en fait, ça le solutionne pas.
Ça le repousse.
Je me suis beaucoup renseignée sur qu'est-ce qui existe comme autre programme en fait pour gérer ça en fait, qui soit mieux pour les victimes, parce que faut le dire aussi que le processus judiciaire c'est un enfer pour les victimes. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Et je suis tombée sur cette initiative qui a lieu aux États-Unis, qui est à New York, un mec qui a fondé je crois que c'est Men Against Rape le nom du truc, voilà. Et lui, il va faire de la prévention auprès des ados dans les lycées, voilà. Et en fait, au lieu de s'adresser aux jeunes garçons en leur disant « ne violez pas », il leur apprend à être des témoins, des gens qui pourraient intervenir en cas d'agression. Et c'est hyper intelligent, parce qu'au lieu d'aller stigmatiser dans les quartiers sensibles les jeunes garçons en disant « on vous voit, vous êtes des potentiels violeurs, on va vous expliquer que c'est pas bien enfin, », tu vois, tout le monde sait sur le papier que c'est pas bien, quoi. Et ben, il va leur apprendre à être un peu des héros et à intervenir. Et en fait, les résultats sont ultra bon, parce que non seulement ces personnes-là interviennent quand elles voient des agressions dans leur voisinage, mais en plus elles n'agressent pas, quoi.
Ah, c'est fort.
C'est hyper intelligent.
Renverser le stigmate, parce que tout le monde veut être un héros.
Mais bien sûr. Et d'éduquer comme ça, en passant par un... en empouvoirant les gens, t'arrives à des résultats qui sont tellement plus forts, en fait.
J'aime bien toujours penser aux oppositions que telle ou telle mesure pourrait générer. Et donc là, ce qu'on pourrait dire, c'est « Ouais, mais ça doit coûter super cher de faire des campagnes de prévention dans tous les lycées pour les ados. » Mais en fait, est-ce que ça ne coûte pas beaucoup plus cher tous ceux qu'on garde en prison actuellement ? Non, mais... Et comme tu dis, avec une efficacité qui est minime. Donc c'est un peu réévaluer le rapport coût-avantage, entre guillemets.
Non mais la prison c'est une vaste absurdité. Honnêtement, je veux pas te dire des bêtises, mais je crois que c'est 12% de criminels en fait qui sont incarcérés. Enfin, dans les prisons, t'as 12% de gens qui ont commis un crime. Le reste, c'est beaucoup lié aux stupéfiants, c'est les usagers de stupéfiants, les gens qui aussi revendent. C'est beaucoup lié à la précarité en vrai. Énormément des délits routiers. Enfin, en fait, c'est ça, les 80% des détenus. C'est hallucinant.
Je mettrai dans les notes l'initiative dont tu as parlé, comme ça les gens pourront regarder.
Et du coup, je n'ai pas fini de te raconter le slut-shaming.
Ah oui, slut-shaming, vas-y.
Donc, parce que lycée, donc slut-shaming, alors que j'ai 13 ans, en fait, on m'appelle la salope. J'avais des Doc Martens jaunes, on m'appelle la salope aux Docs jaunes, tu vois, au lycée.
Mais juste parce que tu vas voir des mecs qui leur proposent des verres.
Non, là, c'est parce qu'il y avait une soirée d'intégration et j'avais dansé. Je voulais absolument avoir un copain. Parce que pour moi, qui avait été bien malmenée au collège, je m'étais dit, en fait, avoir un copain, c'est le moyen
d'être cool.
Exactement. J'avais déjà compris que la valorisation des femmes, évidemment, on l'a toutes compris très jeune, c'était les hommes. Donc, je voulais me trouver un copain. Et donc, j'ai dansé un peu comme je pensais être sexy, tu vois. Donc, un peu genre les squats. Tu sais, tu descends, tu remontes. et je suis montée sur les tables et tout. Enfin, j'ai tout donné. Et je suis rentrée bredouille. Et puis, à partir de cette soirée, j'ai été appelée la salope au Doc Jaune. Et comme je l'ai pas su tout de suite, en plus, j'ai proposé à des garçons de sortir avec moi que je connaissais pas en allant les voir direct, etc. Donc voilà. Et ça a perduré. Donc je fais un fast forward. Là, j'ai 33 ans. Donc je suis mariée, je commence à avoir des aventures. Et ces aventures, donc, je les ai aux États-Unis pendant que je suis en déplacement professionnel. À l'époque, je travaille pour Apple depuis plusieurs années. Et donc, pour les lancements de produits, je vais en Californie. Et c'est dingue parce qu'il y a des gens, mais du monde entier, qui font le même travail que moi, qui sont publicitaires. Et voilà, il y a une espèce de, tu vois, de truc ultra festif. On se découvre, on est tous des personnalités plutôt marrantes. Et c'est là que j'ai des aventures. Et j'ai un boss qui est facho. Alors, erreur de casting de ouf de la part d'Apple.
Là, vous avez merdé.
Mais j'ai un boss qui est facho. Et mascu, évidemment. Enfin, ça va main dans la main. Et qui me dit... Tu ne peux pas, je sais même pas comment il apprend, tu vois ce que je fais, parce que évidemment je roule pas des galoches au bureau, tu vois. Mais bon, t'imagines bien qu'un séminaire de 4 semaines, les gens papotent. Et il me prend, tu vois, comme ça, en tête à tête, et il me dit non, mais tu peux pas salir la réputation de notre équipe, on représente la France. Je te jure, les femmes sont des fleurs, tu ne peux pas te rouler dans la boue. J'ai pas envie d'entendre que les mecs du web parlent de toi comme une salope. Enfin bon, je te passe les détails. C'était quelqu'un qui. On travaillait vraiment 7 jours sur 7. Et donc, en Californie, il fait chaud. Et le dimanche, il y avait un truc un peu acquis qu'on pouvait venir, tu vois, habiller un peu plus relax. Et donc, je venais en short en jean. Il m'a appris l'expression la plus répugnante que j'ai jamais entendue, qui était « Ah, tu es... » Un jour, il me dit « Mais ah, t'as mis ton short à moustache ?» Et je tique pas, tu vois, je comprends pas, c'est quoi le short à moustache ? Et il me le redit, tu vois, une autre fois. Et là, je lui demande « Mais c'est quoi ?» En fait, c'est « Ton short est tellement court que tes poils pubiens dépassent et que ça fait une moustache. » C'est ça, l'expression. Alors, c'était pas mon cas, j'avais pas les poils pubiens qui dépassaient. Mais c'est l'expression pour dire « ras la moule », quoi. C'est dégueulasse, on est d'accord ?
Non, mais... c'est dégoûtant.
Imagine ton boss qui te sort
bas,
ça.
Malaisant.
Ton short, sa moustache.
Et moi, il y a un truc, de toute façon, sur la tenue, qui est un de mes grands combats de toujours, où je trouve qu'on bride énormément le corps de femmes, qu'on sexualise le corps des femmes. On veut que les femmes prennent le moins de place possible dans la société au sens propre comme figuré. Et ça passe aussi par les vêtements, quoi. Donc, mais moi, ouais. C'est un combat de.
Je comprends.
Tu vois, même la dernière fois, j'ai mis une mini-jupe et j'étais là, putain, quand même, elle est courte et tout. Et en fait, je me disais, bah ouais, mais en fait, j'ai le droit. Enfin,
absolument, ouais.
Tu vois, genre, c'est pas un appel à quoi que ce soit. C'est. Ouais. J'aime le style, j'aime la marque, j'aime, tu vois, et il faut arrêter d'y voir tout le temps un message derrière. Et si moi-même je me bride, si je change ma tenue, je participe au système qui essaye de ouais. couvrir les femmes finalement.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est à moi de me changer et pas à eux de changer leur comportement, quoi.
Je comprends tellement ce que tu dis, mais en gros, j'ai lâché l'affaire. Mmh. En gros, j'ai lâché l'affaire. C'est un renoncement. Ce combat-là, je le mènerai pas. Je peux pas être. Enfin, clairement, on peut pas être sur tous les fronts.
Ouais.
Mais moi, je me suis clairement acheté une tranquillité, je m'habille en mec. Non, mais vraiment. Hein.
Et pourquoi, pour toi, c'est une tranquillité ?
Mais je n'attire plus aucun regard. Mes relations avec les hommes n'ont plus rien à voir. Parce
avant,
que...
les regards te dérangeaient et du coup, tu
as
décidé
fond.
De...
Ce que je t'ai raconté sur l'agression sexuelle dans le métro, ce qui m'a marqué, donc c'est l'absence de
soutien,
mais aussi
ouais.
le regard du mec. Du coup, le regard des hommes sur moi était à la fois... une flatterie parce que, à la fois, j'en avais besoin pour me sentir femme valorisée, femme valable, et à la fois, une source d'anxiété, de névrose. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai été tellement dans le refus des jeux de séduction. Je suis incapable de soutenir un regard désirant, et moi, de poser mon regard désirant, c'est très compliqué pour moi.
C'est l'objectification avec laquelle tu as du mal ?
Je saurais pas te dire non, c'est... Il y a un truc de regard laser, en fait, si je pouvais te faire... C'est vraiment un regard qui...
Mais je sens, hein. Mais pour moi, derrière ce regard d'homme, c'est une forme d'objectification d'objet sexuel, quoi. C'est
pas le fait d'être de la chair fraîche, j'ai envie de dire. En fait, avant d'être une féministe plus fine, j'ai complètement renversé ce jeu, on va dire. Moi, je voyais vraiment, en fait, la séduction masculine comme une prédation. Et j'étais pas une bonne proie. Parce que, bah, je sais pas, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas envie de le comprendre. Je me suis assez peu fait draguer dans ma vie. On m'a dit, tu vois, les potes qui te disent, oh, tu fais peur au mec, enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon. En tout cas, je me suis assez peu fait draguer, ce qui pour moi était un souci, parce que je voulais avoir un mec et j'étais timide. Donc, c'était l'équation.
L'équation n'allait pas.
Ultra compliquée. Donc, il y a eu un moment où j'ai joué, enfin, j'avais toujours été assez cash, mais où j'ai vraiment joué ça de façon plus permanente dans ma vie, où je me suis dit, ok, c'est moi qui vais chasser. J'écoutais la chanson de Björk. I'm a hunter. J'étais ok. Et pour moi, en fait, cette métaphore de la prédation n'était pas problématique. On était bien avant MeToo. Et je me disais, allez, je vais chasser du mec, tu vois. Et je trouvais ça excitant. Voilà. Je sais que c'est dérangeant au prisme d'aujourd'hui.
Bah, je sais même pas si ça l'est parce que t'en parles beaucoup tant que c'est consenti. En fait,
t'inverses
le schéma de genre, c'est tout. C'est que pour moi, aujourd'hui, on devrait pas trouver ça problématique qu'une femme aille draguer. Enfin, tu vois, un homme qui va draguer, a priori,
ouais,
c'est.
Non, en fait, ce que je trouve problématique, c'est ce schéma de cette métaphore de prédation, de chasse. Je trouve que, en fait, se dire rencontre, échange, c'est quand même plus sain. Que
oui.
Où là, t'as un truc, tu vois, de consommation, mais que j'ai longtemps eu, hein, honnêtement, sur les applications. Je peux pas dire que j'avais une démarche ouais. autre que consommatrice.
C'est mais pas... est-ce que c'est pas le principe même de l'application ? C'est-à-dire.
Tu non, mais consommes, que j'ai eu et que j'aurai encore si ouais. demain je suis célibataire et que je me remets sur les applications, ouais. on va pas se mentir.
Je suis curieuse de savoir ce que ça t'a apporté. Je sais pas combien de temps tu as été, parce que je sais que t'as été actrice du coup dans le porno avant d'être réalisatrice, ce que tu tenais à
ouais,
découvrir en fait ce que c'est avant de les diriger. Combien de temps ça a duré et qu'est-ce que ça t'a appris ?
Ça a duré très peu de temps. Ça a commencé effectivement parce que. Pour deux raisons qui étaient vraiment pour le coup morales. Donc la première, effectivement, des questions de j'avais peur de pas être légitime pour diriger les acteurs pendant des scènes de sexe. J'avais aucune idée de comment tu diriges les gens. Je me suis dit, ok, il faut que je vive le truc. Et puis, par-dessus ça, il y avait une raison qui était vraiment puissante pour moi, qui était, ok, tu pars dans une croisade, parce qu'en fait, le slut-shaming dont je parlais tout à l'heure, il y a eu un moment où j'ai eu un méga ras-le-bol. Donc après mon divorce, là, vraiment, j'ai eu le short à moustache et tout. Je me suis dit, non, mais là, j'en ai marre. Et il y a eu une véritable envie de taper du poing sur la table et de montrer qu'en fait, être une femme désirante, c'était beau. C'était la vie. Ouais, c'était une pulsion de vie. Et qu'il fallait qu'on en soit fière en tant que femme. En fait, j'en ai eu marre de vivre dans la honte. Je me suis tellement réveillée après... Est-ce que tu vois cet état où t'as beaucoup bu à une soirée, tu te réveilles le lendemain et t'as grave honte. Tu sais pas, c'est confus, tu sais pas pourquoi, mais t'as honte parce que finalement t'as lâché prise, parce que... voilà, parfois t'as fait des trucs honteux, on va pas se mentir. Mais je trouve que le niveau de honte que tu as, enfin en tout cas que moi j'ai pu ressentir par rapport à la proportion du truc honteux, tu vois...
N'est pas
c'était, proportionnel. C'était complètement ouais. Exagéré, quoi. Et j'en ai eu marre de ressentir cette honte, tu vois, de « Ah, j'étais pas bien au date », et d'être là « Ah, j'étais pas bien épilée ». Toutes ces hontes accumulées, mais j'ai une espèce d'overdose de honte, quoi. Et le... voilà. Du coup, solution radicale, je fais « Ok, je vais montrer qu'il y a de quoi en être fier », et du coup, le porno me semblait être la bonne mesure à prendre et le bon médium. Je te fais rapidement la raison pro aussi qui m'a semblé plus créative. Je me suis dit, ok, faire du porno, on en est où? Est-ce que ça existe le porno féministe? Et j'ai vu, en fait, alors il y avait Erika Lust à l'époque, mais j'ai vu que globalement, très globalement, l'industrie, pour le coup, du porno, elle était complètement commerciale, en fait. Hein, qu'il n'y avait plus aucune ambition comme il y avait pu avoir dans les années 60, 70, jusqu'au début des années 80, de faire des films, etc. Je me suis dit, il y a un truc à habiter, il y a un truc à proposer là. Re-raconter des histoires, que les gens désirent des personnages, des personnalités, pas juste des morceaux de corps, quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà, il y a eu tout ça qui s'est entrecroisé. Et donc, je décide de performer, c'est comme ça que je dis, de jouer dans des films, pour dire qu'en gros, si je veux montrer que c'est une fierté, la sexualité, je vais pas rester derrière la caméra et dire aux autres « Allez, passez devant !» c'est vrai, c'est beau, hein, mais surtout, tu vois, non, c'est pas possible. Donc c'était important pour moi d'engager mon corps, de dire « Si je dis que c'est pas honteux, voilà, j'y vais jusqu'au bout. » Alors, ça m'a pas appris du tout ce que je cherchais, c'est-à-dire que l'expérience que moi j'ai faite individuellement... de performer dans un porno ne m'a pas aidé à diriger les autres. Ouais. Non, parce qu'en fait, c'était un peu con de ma part de penser ça, parce que en vrai, on est tous différents et différentes. Donc, en fait, mon expérience particulière, si je la généralise, c'est complètement con. Enfin, tu vois.
Oh, mais psychologiquement, je pense que ça t'a quand même aidé à te dire, au moins, moi, je suis passée par là aussi, parce que si jamais tu ne l'avais pas fait.
En légitimité.
Voilà, en légitimité, je pense que ça aurait été lourd, quoi.
J'étais plus droite dans mes bottes, ça, c'est sûr. Mais ça m'a pas aidé à comprendre ce que pouvaient vivre les autres, tu vois, c'était pas le truc magique.
Ouais, et t'es allé voir cette Erika Lust pour le faire, parce que comme tu dis...
Pas au début.
Au début,
c'était avec une Française qui s'appelle Lucie Blush, qui a disparu de la scène depuis, mais voilà, qui était installée à Berlin, qui était une réalisatrice féministe.
D'accord.
Et je l'ai contactée, et voilà, et... ça a bien matché. Ça m'a pas appris à diriger les acteurs et les actrices, ça m'a appris un truc quand même super fort. Et super important pour moi. Quand je me suis vue après mon premier film porno, donc là, j'étais pas derrière la caméra, c'était donc Lucie Blush qui tournait. J'avais toujours eu un problème avec ma perception de moi, mon corps. J'ai eu des troubles alimentaires. Je me suis jamais trouvée assez belle, tout en ayant conscience d'avoir plutôt de la chance, mais tu sais, en même temps... Bref. Et de me voir baiser... Et assez heureuse de faire ça, tu vois, avec le rose aux joues et tout. Et ben, je me suis un peu aimée. Et même, je me suis aimée. Je me suis dit, ah, t'es touchante, t'es mignonne, t'as l'air joyeuse, t'es belle, t'as l'air contente. Et il y a eu un truc vraiment d'acceptation de moi très, vraiment fort à ce moment-là. Tout le temps que j'ai fait du porno, il y a eu, alors je vais dire ego boost pour simplifier. Mais vraiment, je me suis sentie très bien dans mon corps, dans mes baskets. Il y avait un truc qui m'a fait du bien.
Et peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas fondamentalement ce qui différencie un porno féministe d'un porno mainstream, voilà, quelles sont les principales différences?
Putain, il y en a tellement. Je vais essayer de te dire ce que moi j'y vais. Je pense que la réflexion féministe, elle s'applique à la fois sur la façon dont tu travailles, dont tu vas produire le porno et sur ce que tu donnes à voir. Pour moi, il y a vraiment ces deux responsabilités-là en tant que réalisatrice. Alors, la façon dont tu produis, eh ben, c'est... Alors là, on va aller direct dans le cœur du sujet. Il y a eu des scandales et je pense qu'il y a des problèmes récurrents dans le porno mainstream et pas que d'ailleurs, aussi dans le porno éthique, de respect du consentement des performeurs. Déjà, il y a des pratiques de base qui sont pas saines, par exemple le fait de pas avertir si t'as un changement de performeur. Enfin, les gens se retrouvent sur les plateaux, ils savent même pas avec qui ils vont tourner. Après, il y a aussi des pratiques. On te dit ouais, bah tu vas faire telle pratique sexuelle et en fait ça embraye vers un truc beaucoup plus hard qui est proposé alors que les gens sont déjà en train de tourner. Enfin, tu vois, avec plus ou moins de pression. Et il y a eu des trucs vraiment dramatiques, criminels. Là, je pense à l'affaire Pascal Oppé. Bref, donc il y a tout un tas de mauvaises pratiques. Donc là-dessus, grosse réflexion sur comment on peut travailler de façon respectueuse pour les performeurs et puis pour toute l'équipe. Hein. Enfin, on est toute une équipe, donc ça, c'est ultra important. Donc j'ai beaucoup réfléchi à comment on assure le consentement des gens, des performeurs, dans un contexte qui est par nature pressurisant. À poil au milieu d'une équipe de gens qui sont là pour toi, t'as un jour qui est booké, du matos qui coûte cher. Voilà, comment on fait pour que les gens, malgré tout ça, ils puissent dire je le sens pas? Parce que en fait, quand ils le disent pas, bah c'est dramatique. En fait, c'est dramatique pour tout le monde, c'est dramatique pour eux, c'est dramatique pour toi parce que t'as fait un film qui est basé sur le malaise de quelqu'un. C'est des situations dont t'as pas du tout envie qu'elles arrivent. Tu préfères largement perdre une journée de location de matos. Donc voilà, comment on fait? Alors, j'ai trouvé plusieurs réponses. Alors, moi, je me suis référée à la première fois que j'ai tourné du porno. En fait, dans le porno éthique, il y a une pratique qui était déjà pas mal, mais qui était, en fait, on te fait rencontrer ton co-performeur en amont du tournage, mais genre une semaine avant, tu vois, pas genre une heure avant. Et tu discutes, tu vois si le courant passe. Et puis, en fait, là, on te pose la question de qu'est-ce que t'as envie de faire, qu'est-ce que t'as pas envie de faire, quelles sont tes limites. Et moi, en fait, cette conversation, je l'avais jamais eue avec personne. Et quand j'ai rencontré mon co-performeur avant mon premier film porno comme actrice, j'avais aucune idée de ce que j'aimais et de ce que j'aimais pas. Mais aucune. Enfin, c'était pas... C'était...
Même avec tes expériences passées qui n'étaient pas dans le porno,
j'étais capable de dire je veux pas de sodomie, je sais que ça me fait mal, tu vois. J'étais capable de dire me touchez pas la peau des tibias parce qu'elle est ultra sensible. Mais en fait, j'ai donné tellement de petits détails, c'était pas... Et je pensais en même temps que... Enfin, je sais pas, c'était très flou pour moi.
C'était l'inconnu en même temps.
C'était ouais. Grave l'inconnu. Je réfléchissais en même temps que je... Et en plus, j'ai été face à quelqu'un qui était un travailleur du sexe chevronné et qui m'a opposé un peu des sourcils comme ça parce qu'il avait l'habitude de gens qui avaient un discours cadré là-dessus, qui avaient le temps d'y réfléchir. Tu sais, un peu comme quand tu te présentes dans un rendez-vous pro, quoi. Ouais, moi, j'aime bien tel type de stimulation, plutôt stimulation externe. Enfin, tu vois, j'en sais rien, mais... Ouais. Moi, j'avais pas du tout... J'avais jamais réfléchi à ça. Je me suis dit, je dois pas être la seule à pas y avoir réfléchi. Et même si je travaille quand même pas mal avec plutôt des travailleurs travailleuses du sexe chevronnés, je me suis dit, il faut absolument encadrer cette conversation. C'est-à-dire non seulement la proposer, mais aussi donner des pistes, parce que sinon, si t'es en roue libre, c'est compliqué.
Ouais.
Donc j'ai vachement structuré cette conversation-là en parlant, qu'est-ce que t'as envie de montrer à l'image? Il y a ça aussi, il y a le consentement à l'image. Quelle partie du corps t'es à l'aise de montrer? Parce qu'au montage, tu peux tout faire. Il y a évidemment le consentement intime. Quelle zone tu veux bien toucher, puis j'ai regardé les questionnaires de BDSM. Bref, et en fait, quand t'as une liste de trucs, ça permet d'aborder les choses de façon assez exhaustive. Et ce que j'ai mis en place aussi, c'est que j'écris les scènes de sexe vraiment comme un script, avec des, tu vois, enfin non, il n'y a pas des dialogues, pas, mais un petit peu, il y a un peu des dialogues. Parce que par exemple, je veux que les mecs, ils expriment leur plaisir. On n'entend jamais les mecs, tu vois, genre le mec, il est dans le contrôle. Ouais. On n'entend jamais les mecs. Et donc moi, j'écris des trucs où je dis, enfin... Vas-y, tu vois, je coach pour qu'on les entende, parce que c'est sexy, un mec qui exprime son plaisir, quoi. T'as envie de savoir que c'est cool pour lui. Donc j'écris, je donne beaucoup d'indications, et ça permet de consentir à quelque chose, tu vois, voilà, qui est là, qui est sur le papier. Et surtout, et ça ne suffit pas, tout le travail en amont, il ne suffit pas. Parce que sur le moment, il faut que, en gros, si tu le sens pas, même si t'étais d'accord il y a une semaine, il y a une heure, il faut que tu puisses encore tu vois... le dire. Et donc là, c'est là qu'il y a la coordination d'intimité qui rentre en jeu. Et alors maintenant, ça se démocratise de plus en plus. Je suis contente, on en parle de plus en plus. En 2019, c'était pas évident.
Oui, même dans les films.
C'est d'abord dans les films. Moi, j'ai eu du mal en 2019 à avoir quelqu'un qui voulait bien faire ça dans le porno. Parce que tout le job des coordinateurs d'intimité à la base, c'est de proposer, de faire en sorte qu'il y ait des chorégraphies de scènes intimes pour les séries, enfin pour la fiction, quoi,
ouais.
dans lesquelles en fait l'intimité des acteurs est protégée. Mmh. Donc il y a tout un tas de, tu vois, de trucs, de patchs, de machins pour donner l'illusion de la nudité, mais t'es pas nu, etc. Enfin,
d'accord.
Moi, je me suis fait jeter quand j'ai demandé les services de coordinatrice intimité pro. Hein. On m'a dit non, mais pour le porno, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est
alors, ouais. Alors que ça fait sens.
Tellement enfin... pas que coller des patchs sur la vulve.
Ouais, bien sûr.
En fait, c'était vraiment la personne neutre de confiance qui est pas dans une position de pouvoir vers qui les performeurs peuvent se tourner. Et c'était la personne pour moi qui était là non-stop, à, tu vois, un peu à temps plein à demander. Enfin, ce que moi, j'arrivais pas à faire, tu vois, de demander comment tu te sens, est-ce que c'est OK? Et si elle voyait, enfin, tu vois, le moindre signe, est-ce que tu veux qu'on arrête? Mais tu vois, en fait, d'être ultra proactive sur la demande de consentement. Et ça, je pense vraiment que c'est une constante. Quand on est dans une relation asymétrique, tu vois, même, tu vois, gynéco-patiente, etc., t'es plus âgé, t'es avec, je sais pas, t'as une aventure avec un mec qui est puceau, en fait. C'est toi qui demandes. Il faut demander.
La question que je me pose là, spontanément, c'est comment faire la différence entre le consentement ou le non-consentement et l'anxiété. Alors, parce que ce soit dans le porno ou que ce soit dans la vraie vie, entre guillemets, j'en parle parce que je sais que toi, t'es une personne anxieuse, on en parlera après. Ouais. Donc déjà, tu vois, moi, s'il y a quelqu'un qui vient me demander 10 fois, est-ce que t'es sûr que ça va, étant un peu anxieuse aussi, à la fin, je vais finir par dire non, mais parce que... presque je me sens obligée ou parce que bah, c'est forcément tu stresses, que ce soit avant de performer pour un porno ou que ce soit tu vois, enfin moi si je m'écoutais, enfin si à chaque fois avant de conclure avec un mec il y a quelqu'un qui était venu me voir en mode est-ce que là t'es sûr ça va aller, j'aurais dit non en fait fight or flight, tu vois. Et donc ça doit être très difficile je pense d'identifier ce qui relève de la volonté avec du stress et ce qui relève juste de la non-envie, quoi. Est-ce que toi, en tant que personne anxieuse, tu n'as pas stressé, notamment sur de la performance, tu vois ?
C'est grave.
Et où, au final, si on était venu te voir, tu aurais dit non, on arrête tout, alors que fondamentalement, tu avais quand même cette envie, tu vois ?
Je sais que, par exemple, cette démarche de coordination d'intimité, elle n'a pas plu à tout le monde sur le tournage, vraiment. Par exemple, Brigitte Lahaye, qui était le personnage principal du film, ça l'a gavée. De là, moi, en fait, elle a toujours été ultra assertive. Elle a toujours su dire ce qui lui allait ou pas, donc toutes ces attentions-là, voilà. Il y avait aussi un performeur porno qui fait du porno depuis 15 ans, qui lui était là, mais lâche-moi, tu vois. Après, il y a d'autres personnes qui ont vraiment, pour qui ça a été très utile, et notamment, c'était un casting mixte avec des performeurs de porno et puis des gens du théâtre et du cinéma, et eux, qui faisaient des scènes de sexe simulées, eux étaient vraiment très nerveux, et donc contents qui est une présence enveloppante. Après, tu vois, quand je dis faut demander, évidemment, c'est pas la mouche du coche. Hein. Voilà, tu vois, les personnes, là, c'était Lélé qui faisait ça. Elle faisait ça avec beaucoup de sensibilité. Et ça peut être juste, tu vois, un regard. Enfin, en tout cas, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est bienveillant, avec qui t'as noué une relation en amont. C'est surtout ça, quoi. C'est pas genre, t'es sûr. Après, pour en revenir à l'anxiété, moi, c'est un truc, effectivement, auquel j'ai pas mal réfléchi parce que, donc, deuxième film de Beach Hiker, où cette fois, je suis réalisatrice et performeuse. Et là, je suis pas du tout dans la même ambiance que sur le premier film où c'était tout rose. Là, je tourne avec le même performeur, mais il y a des tensions entre lui et moi, ça se passe pas très bien. En fait, on a relationné un petit peu, enfin, on a eu une aventure, on a couché ensemble, on a continué à coucher ensemble entre les deux tournages, ça se passe pas très bien. Et du coup, tu vois, le moment de tourner la scène, franchement, j'en ai pas envie. Ça m'a beaucoup posé question parce que je me suis dit, en fait, si tu fais du porno féministe, éthique et que tu te retrouves à te forcer, tu vois, pas d'intérêt. Et en fait, j'ai résolu un peu cette espèce de paradoxe. Et ça, je pense que c'est assez intéressant pour justement toutes les conversations qu'on a autour du consentement. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a aidé. Je trouve que on fait souvent reposer le consentement sur le désir. Est-ce que t'avais envie, etc. Est-ce que t'étais excitée ? Pour moi, je trouve que c'est plus juste de le faire reposer sur la volonté. Moi, ma volonté, mon projet, c'était de faire ce film, d'être filmée avec une scène de sexe. Et voilà, j'avais envie de faire ce film-là. Donc sur le moment, je n'avais pas de désir. J'étais même stressée. Mais je me suis dit, OK, j'ai ce projet-là, j'ai cette raison-là. Et j'ai réussi à me mettre dans ma bulle avec le performeur. Prendre 10-15 minutes, s'embrasser. Et mon corps a commencé à se réveiller. Et le désir est monté. Et on a pu le faire sans que ça me fasse aucunement violence. Mais effectivement, tu vois, forcément, tu te poses la question de... voilà, je suis là dans un truc où c'est ma volonté qui décide que je vais avoir, un rapport sexuel. Et du coup, là, ça renvoie au fait qui n'est pas très accepté, mais qui pourtant, je pense, est bien réel, qu'on n'a pas des rapports sexuels que parce que on a une montée d'excitation, en fait. On se masturbe parce qu'on a une montée d'excitation, là, ouais. Mais en fait, le sexe, comme rapport humain, a tellement d'autres fonctions entre des partenaires. Parfois, je sais pas, un exemple à la con, parfois il peut servir un peu de lubrifiant relationnel, tu vois, de réconciliation. Là, c'est pas... Enfin, le make-up sexe, c'est pas l'excitation sexuelle qui te pousse, quoi. C'est l'envie de te sentir plus proche. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas forcément très confortable comme sujet à aborder.
Mais... Si, parce que si, je trouve que ça montre en effet, et c'est un peu peut-être aussi le problème du porno mainstream notamment, mais de réduire le sexe à juste cette pulsion de... sexuelle. Enfin, alors que c'est beaucoup plus que ça, si on veut que ce le soit. J'allais te demander, est-ce que toi, le fait d'être performeuse et réalisatrice de porno a changé dans ton rapport au sexe, dans ta vie personnelle, dans ta vie intime ?
Eh ben, pas tant. Pas tant du tout. Ça m'a permis de réfléchir un petit peu à mon... J'allais dire identité, c'est pas ça, mais à mon orientation sexuelle. Parce qu'en fait, quand je me suis retrouvée à Berlin, donc je suis partie à Berlin pour tourner ces deux films, et la scène du porno alternatif berlinoise est très queer, et il y a beaucoup de pratiques kinky, BDSM, et moi, c'était pas du tout mon truc. Enfin, tu vois, j'étais vraiment pas la meuf cool, encore une fois, dans cette communauté-là. Moi, franchement, faire l'amour sous la couette... je suis ravie, ça me va très bien, avec un petit massage avant ou après, c'est le top. Et donc je suis ce qu'on appelle vanille, très vanille. Donc ça m'a permis d'identifier ça, tu vois, en fait, en me confrontant à la sexualité de plein d'autres personnes. Et je pensais que, en fait, j'allais résoudre, tu vois, le problème dont je parlais tout à l'heure, enfin, qui n'est pas un problème d'ailleurs, mais que j'identifiais comme un problème de manque de libido, etc. Je me disais, ah, maintenant, tu vois, genre, je vais être tout le temps un peu up, etc. Non, trop pas. Enfin, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu un gros effet boost le temps que je tournais. Mais en fait, revenu dans ma vie réelle, j'ai envie de dire, enfin, intime, ça a rien changé. Et l'ego boost aussi par rapport à mon corps, qui a duré pendant que je performais, a disparu aussi. Quand j'ai arrêté de tourner, tu vois, je me suis reconfrontée au fait d'être seule devant ma glace, tu vois, enfin, d'être un peu la seule personne qui me voyait nue, à part mon partenaire éventuel, mais de plus avoir ce...
Ce troisième œil, entre guillemets.
Ouais, qui me poussait aussi à être tout le temps un petit peu dans la... je sais pas, tu vois, à faire... justement, être dans le contrôle de mon corps. Moi, j'ai quand même des soucis de contrôle de mon corps. Hein. J'ai eu des TCA, donc...
Et tu les as encore ? Parce que... J'ai vu que tu avais fait, je crois que c'est en 2021, cette grève hétérosexuelle.
Ouais.
Parce que tu avais un ras-le-bol du male gaze, du regard masculin. D'où t'es venu ce ras-le-bol ? Et qu'est-ce que concrètement, du coup, t'as changé dans ta vie ?
Alors, sur le contrôle du corps, je pense que c'est un truc qui s'en va jamais tout à fait. Comme beaucoup de trucs, je trouve, en santé mentale. Tu peux te rétablir, tu peux aller mieux, mais il y a toujours un truc...
Une épée de Damoclès.
Ouais, je dirais pas de façon aussi anxiogène. Je dirais plutôt un fond qui peut ressurgir et une tendance. Et du coup, j'ai toujours ce truc de me dire, tu vois, comme en pleine conscience. J'observe que là, par exemple, j'ai commencé un traitement qui peut me couper l'appétit et donc forcément me faire perdre du poids. J'observe que j'ai une certaine jubilation à cette idée. Voilà, je sais que c'est pas sain. J'observe, je me juge pas. Et je suis bien vigilante à manger malgré l'effet coupe-fin du truc, tu vois. J'observe que c'est pas évident de vieillir pour moi, alors que j'ai que 40 ans et que je m'en sors, tu vois, ça va, je m'en sors pas trop mal. Mais j'observe que j'ai peur, qu'il y a pas mal de trucs qui me dérangent, enfin voilà. Sur ce contrôle de mon corps, je dissocie ce qui relève de mes névroses, hein, de ce truc de je voudrais que mon corps m'obéisse, ressemble à ce que la société nous dit, voilà. Bref, j'arrive pas à finir cette phrase, mais voilà, ce qu'on nous dit qu'un corps standard devrait être. Merci. Et d'un autre côté, les efforts que je fais pour être une bonne partenaire hétérosexuelle. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit, un peu, tu vois, comme sur les préparatifs de mon mariage, la déco de mon appart, je me suis dit... j'investis beaucoup, je fais beaucoup d'efforts. Et je vois en plus en vieillissant, tu vois, une espèce de motif. En fait, c'est souvent en regardant les autres que tu comprends des trucs sur toi. Je voyais pas mal de couples, tu vois, 35 ans par là, où le mec, tu vois, ça va bien dans sa carrière et tout. Et tu sais, il se laisse, il y a une petite brioche qui s'installe, mais tu vois, mais c'est cool. Et la meuf à côté, yoga, tu vois, 8 fois par semaine, tu vois, non, mais gaulé de ouf et tout. Et je voyais, tu sais, cette inégalité. Enfin, genre, c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Moi, toutes mes potes parisiennes de la pub, elles sont tellement gaulées, elles ont eu 2 gamins. mais elles sont comme ça. Enfin, ouais, je sais pas, ça me. Moi, tout d'un coup, je me suis vue aussi faire des efforts face à un partenaire que lui était relax, tu vois, le matin, caleçon, pantalon, basta, quoi, petit coup de peigne, et c'est tout. Et je me suis dit, ah, j'en ai ma claque, j'en ai ma claque. J'en ai ma claque parce qu'en plus, ce qu'on m'a renvoyé à chaque rupture, c'est que j'étais une femme égoïste parce que... Alors la première fois, c'est parce que j'avais pas voulu faire d'enfant. Là, c'est parce que Olympe de G, enfin ce projet d'Olympe de G, de réalisation, etc., prenait trop de place. Voilà, je m'étais pas assez dans ma vie domestique, en fait, tout simplement. C'est un reproche qui m'est tellement revenu des hommes. Et moi, mais laisse tomber, pourtant, comme j'avais l'impression de donner à fond, mais tu vois, d'essayer de tout gérer, d'être là, enfin... Oh là là, et je me suis dit, non mais attendez les gars, là c'est... J'en ai marre. Je donne tout et en plus on me renvoie que j'en fais pas assez il y a un moment. Sachant qu'en plus, moi dans mes histoires avec les hommes, j'ai toujours été ce qu'on appelle la chef de famille, on va dire. C'est-à-dire la meuf qui ramène la thune, à qui appartient l'appart, la maison.
Comment tu l'expliques ça? C'est un pattern.
Alors, je l'explique aussi assez statistiquement, qui fait parce que je suis privilégiée, tu vois, enfin mathématiquement. Et puis du coup, ça n'a jamais été un critère pour moi que les mecs. J'étais avec des mecs, tu vois, j'allais pas chercher des mecs qui étaient en situation de difficulté, hein, mais je sais pas, moi j'ai toujours bien négocié mes salaires quand je bossais dans la pub. Mmh. Mon mari, il était aussi dans la pub, mais vachement moins bien payé. Enfin, vraiment du simple au double, ce qui était, tu vois, compliqué pour lui.
Ouais.
Après, j'étais avec un mec qui était architecte, qui gagnait pas bien sa vie. Et qui, en plus, a développé, lui, une espèce de jalousie par rapport à ma visibilité. Jalousie qu'il n'identifiait pas lui-même.
Mais c'est fou, parce que tu sais que t'es pas la première à me le dire.
Ah, mais c'est hyper relou, hein. C'est surtout fou, que hein. Le mec arrivait pas à... Pardon, j'en parle mal quand je dis le mec, mais franchement, ouais. Ça me met un peu en colère. En fait, cette espèce de manque d'intelligence émotionnelle, qui est vraiment aussi une problématique d'éducation des garçons, hein, je pense, parce que voilà, je pense pas que ce soit congénital, hein, le truc, mais il arrivait pas à identifier qu'il était jaloux. Donc moi, en fait, tu vois, typiquement, situation où je me mets en quatre, j'étais là, écoute, je comprends... Alors, il bossait avec moi sur Vox. Et j'avais toutes les interviews. Parce que personne ne savait qui c'était. Tu vois, il était producteur. Voilà. Bon. Il en prenait ombrage. Il m'en voulait de ne pas réussir à l'emmener dans les interviews. J'essayais. Mais tu vois, à un moment, les gens, ils sont là. Bah, nous, enfin, ça ne nous intéresse pas, nous. Enfin, que ce soit toi, quoi. Et du coup, c'était ultra stressant. Et moi, j'en étais à le coacher pour qu'il ait une visibilité. Je dis, écoute, je te fais un site. Tu vois, je lui ai même fait la surprise de lui acheter un nom de domaine, de lui faire un site sur Wix, en disant, voilà, franchement, c'est intéressant, t'es un mec allié, on va développer un discours là-dessus. Voilà, moi, je te pousse. J'avais déjà mon compte Insta qui marchait bien. Il a jamais pris le truc en main. Donc, tu vois, juste cette attitude comme ça de... un peu...
J'appelle ça un rageux.
Non, mais oui, c'est le bon mot. C'est le
Il
bon
faut
mot.
Le dire.
C'est le bon mot. Tu sais, tu te retrouves à gérer ça dans ton couple, quoi.
Ouais.
Putain, c'était...
Il faut qu'après, ils te disent, t'en fais pas assez dans la vie
domestique.
Mais
ouais, enfin, écoute, je sais plus très bien comment on s'est séparés. C'est plus récent, mais c'était un peu plus flou, tu vois.
Et,
mais...
et du coup, quand t'as ce ras-le-bol, qu'est-ce que ça change concrètement? Tu te dis quoi? Tu te dis, je vais plus dater de mec? Tu te dis, je vais plus faire d'efforts, mais ceux qui veulent venir, venez. Tu vois, comment ça change ton rapport aux relations amoureuses?
Là, on est vraiment dans un truc entre... Enfin, un peu résolution de nouvel an. Parce que concrètement, c'est...
Donc, ça n'a pas duré, mais ouais. Tu peux le dire aussi. Hein, c'est
ah non, mais clairement, hein. En fait, mon projet de base, vraiment, je ressens une colère. Tu vois, on se sépare. Oui, je sais que c'est parce que ma carrière prend toute place, il en a ras le cul. Voilà. Et là, je me dis, non, mais moi, les hommes, voilà, j'en ai ma claque. Franchement, on ne se comprend pas. C'est voilà, être une féministe qui sort avec des mecs, c'est compliqué. J'aimerais, dans l'idéal, pouvoir relationner avec des meufs. Alors, en plus, j'idéalise totalement le truc parce que, évidemment, que c'est très compliqué relationnellement aussi. Mais bon, je me dis, j'aimerais essayer ça. J'en sais rien, tu vois. Je lâche un petit peu tout. Et donc, je me mets sur les applications de rencontres et j'ouvre aux meufs. Je commence à parler avec des meufs, j'en rencontre. Et puis, bah, franchement, à chaque fois, je me retrouve genre, à me dire, mais la meuf est hyper cool. J'ai hyper envie qu'elle soit ma copine, mais franchement. Voilà quoi, j'ai aucune envie de rentrer avec elle. Et d'ailleurs, je suis un peu stressée parce que du coup, je me sens complètement impostrice, tu vois. Je suis là, bah, je suis un date, en fait, trop. Fin... Donc bon, je m'en suis bien sortie parce qu'elles sont restées mes potes, les nanas que j'ai rencontrées.
C'est cool.
Clairement, j'en ai parlé dès le premier date parce que franchement, enfin, tu vois, à la fin, j'étais là, bon, par contre, voilà. Ouais. Ça va être amical parce que
ouais, tu t'es pas forcée à tester le truc.
Ah non. Ouais. Clairement, mon. tout était au diapason, il n'y avait pas moyen que j'y aille. Comme ma libido à ce moment-là était assez up, j'étais sur les applications, j'ai relationné avec des mecs et je suis retombée dans les mêmes, dans les mêmes travers de surinvestissement. Je me suis regamélée, j'étais re-en colère contre moi-même et j'ai ajusté peu à peu, tu vois. Il n'y a pas eu de truc magique, il y a vraiment eu juste, ok, là, en refaisant les mêmes erreurs, je les identifie quand même de mieux en mieux. Donc il y a un moment où je vais réussir à les éviter, tu vois. C'est un peu comme essayer d'arrêter de fumer. T'es là, là c'est ça qui m'a fait plonger, je le saurai pour la prochaine fois.
Ouais.
Il n'y a pas eu une révolution en fait, il y avait beaucoup d'envie, mais franchement, changer complètement une pratique si intime que la relation amoureuse à 38 ans, alors que t'as le premier petit copain allez, à 14 ans, c'est chaud, enfin tu vois, c'est vraiment chaud quoi.
Ouais.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que je m'épile plus depuis cette époque, je me maquille très rarement. Aujourd'hui, je me suis maquillée pour toi, j'ai mis du mascara, mais c'est vraiment rare et c'est pour toi.
C'est gentil, j'allais te dire merci, mais en fait, je suis même pas sûre que ça a lieu de. Tu vois.
C'était
moi, désolée, je me suis pas maquillée.
Putain, mais t'as des cils incroyables.
Merci.
On dirait que. Moi, j'ai des cils. Ils sont courts et transparents, ce qui est bon. Voilà,
la loterie génétique, de toute façon.
Ouais, c'est clair. Ma sœur a des cils de ouf aussi. Ouais. Mon mec a des cils de ouf. Enfin, bref, moi, j'ai des petits cils courts et transparents. Mais ouais, tu vois, pour célébrer notre rencontre et ton invitation, j'ai mis du mascara, mais je le fais plus. Je le fais plus dans les contextes de séduction. Donc voilà, il y a tout ça. Quand vraiment mes jambes poilues parasitent le moment que j'ai envie de vivre, je les épile. Mais c'est pas dans les contextes de séduction, c'est plutôt, tu vois, je suis en vacances, je suis sur la plage, je vois que je pense qu'à mes jambes, tu vois. Je me dis, va te passer un coup de rasoir, tu vois. Enfin, ce sera plus simple. Enfin, en tout cas, là, j'ai une relation dont je suis contente. Mais vraiment. Donc ça c'est je pense que c'est aussi le fruit de tu vois de cette grève, parce que cette grève elle m'a permis de faire un truc que je faisais pas du tout avant. Avant en fait, j'avais tellement peur que le mec qui me plaisait ne veuille pas de moi, que en fait je taisais ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie. J'étais à fond dans mon rôle de je veux te plaire quoi, je veux être acceptée.
On n'a pas forcément en tête que c'est une dynamique qui est double. C'est autant j'aimerais lui plaire que ouais mais il faut qu'il me plaise aussi en fait.
Ah non mais
et c'est un peu comme un recrutement, entre guillemets, tu vois. C'est pas que dans un sens, quoi.
Ouais. Bah moi, à partir du moment où je sentais un truc, tu vois, où la personne me plaisait, je lui posais aucune question. Tu vois, ce truc de... OK. Et moi, tu sais, c'était vraiment genre instinctif. Mais c'est aussi naze et immature que « Ah, je le trouve beau, donc tu vois, je vais tout faire. » Non, mais tu vois...
Moi, c'est mon grand combat. Je suis assez transparente dessus sur mon podcast parce que ça ne sert à rien de prétendre d'être qui on n'est pas. Mais tu vois, autant j'ai grave déconstruit ça par rapport à l'apparence féminine, autant ce serait mentir de dire que je m'en fous complètement du physique des mecs, tu vois. Et j'essaie de travailler dessus, mais... En même temps, c'est pas en regardant des dramas coréens à longueur de soirée avec des mecs qui sont hyper dans les standards de beauté que je vais y arriver, tu vois.
Je vois très, très bien, ouais. Et moi, tu sais, il y a un truc que j'ai jamais réussi à déconstruire comme ça et que j'ai essayé très fort, mais ça le fait pas, c'est la taille.
Ah ouais.
Ah, la taille. Moi, je suis très grande et j'exagère, je fais pas 2m10, mais je fais 1m80 et... vraiment, j'ai essayé, quoi. Les mecs plus petits, il y en a plein qui étaient tellement cool et tout, mais ça me bloque.
Ouais, mais
le fait de se pencher pour embrasser. Et je sais que c'est complètement le truc, tu vois, de hétéronormé, de « Ah, je veux un homme protecteur ». Mais en tout cas, ce que la grève m'a permis, c'est de maintenant exprimer direct et avec apaisement, tu vois. C'est pas « Je suis plus dans la colère ». C'est juste, en fait, moi, ça va pas le faire avec moi. Ou voilà ce que je te propose qu'on fasse à la place. Ou voilà, moi, mon besoin en ce moment, c'est ça. C'est peut-être grâce à ça que j'ai une relation dont je suis contente. Parce que honnêtement, ce qui change... dans cette relation, je pense que c'est vraiment la qualité de communication. Tu vois, je pense pas que je suis tombée sur... si, évidemment, je suis amoureuse, donc je suis tombée sur un mec de ouf, mais je pense pas que, tu vois, c'est genre trouver la perle et tout. C'est juste, en fait, quand il fait des trucs qui me dérangent, je lui dis « Et il m'écoute !» Et on cherche une solution. Et en fait, juste ce truc-là qui paraît un peu la base, tu sais, à 40 balais, je suis là « Putain, j'ai ça !» C'est cool. C'est cool.
Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te donne comme conseil, que ce soit pour le sexe ou tes relations amoureuses, quand tu commençais à dater ado, quoi.
Pense à toi. Pense à toi. Pense à ton plaisir. En plus, pense à toi.
T'as déjà eu le cœur brisé ?
Ah ! Tant
c'est
de
vrai
fois. Je dirais, est-ce qu'il y a une relation qui m'a pas laissé le cœur brisé ? Honnêtement. Parce que je m'engage... à fond, quoi, la plupart du temps. Non, allez, il y en a quelques-unes où j'étais pas à fond dedans. Mais
se manifeste comment ? Moi, j'ai jamais eu le cœur brisé.
Je pense qu'en fait, t'as le cœur brisé parce que tu surinvestis le truc. Tu t'y plonges totalement. Et moi, j'ai vraiment ce truc, soit le boulot et tout, tu sais, il y a une personne. Et en fait, quand t'as les rêveries qui se mettent en marche, et là, du coup, mon éducation en tant que fille ne m'aide pas. Les rêveries, tu vois, sur, allez, sur un mode prince charmant, on va passer notre vie ensemble. Tu sais, on parle d'un moniteur de parapente, tu sais, que je connais depuis 3 jours. Mais si c'était le bon, moi, j'ai peut-être besoin, en fait, de vivre au-dessus des arbres, tu vois. On est à ce niveau-là. Et je suis consciente que c'est ridicule. Enfin, tu vois, que c'est irrationnel, du moins, pour utiliser un mot plus gentil avec moi-même. Mais il y a cette machine-là à rêverie. Moi, je suis créative, donc il y a ça qui s'emballe. Ouais,
mais tu vois, pardon, je me permets un aparté. Un peu par rapport à notre débat de « on a du mal à savoir ce qui relève de ce qu'on veut réellement, nous, profondément, et ce que la société nous a fait croire qu'on voulait », j'ai quand même l'impression qu'on est tous les deux victimes de cette rêverie un peu du prince charmant, même si on sait qu'elle est totalement illusoire. Par contre, on n'a pas été réceptive à l'injonction aux enfants. Donc, je crois que ça nous donne quand même des indices sur ce à quoi on consent de rêver, quoi. On a consenti, ouais, tu vois, à ce rêve illusoire. Donc, parce que normalement, la vraie histoire, c'est Prince Charmant, ils auraient vécu heureux, ils auraient beaucoup d'enfants, tu vois.
Ouais. Mais je pense qu'il y a plus de recul, c'est le mot que je cherchais. Il y a plus de recul sur le fantasme conjugal. On se bat contre ce fantasme depuis plus longtemps. On a plus de modèles de femmes sorties du parcours conjugal avec éducation des enfants et tout. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voit plus, tu vois.
Ouais.
Alors qu'une femme qui n'est pas amoureuse et dont on n'est pas amoureux, il y a peu, en fait,
c'est encore vachement
de représentations
aujourd'hui.
Ça, hein, ouais. On n'en connaît pas, et c'est vécu, c'est vu comme triste. Alors, on pourrait aussi dire ça des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais je trouve que, malgré tout, dans un milieu progressiste, il y a quand même un discours plus positif maintenant sur le fait d'être child-free.
Mmh.
Alors que de ne pas avoir d'amour romantique dans ta vie... Il y a un discours aussi dessus, mais qui est un discours très militant, très niche, difficile à trouver.
Oui.
Et
qu'au final, tout le monde plaint, consciemment
ou
non.
Ah ouais, non, mais oui, voilà. C'est en fait quand tu... Ouais. Et ce qui fait que, bah voilà, surinvestissement... Alors, tu rajoutes à ça du sexe qui est bon. Physiquement, ça se passe bien avec la personne. Et moi, je suis comme ça. Alors, j'en ai parlé avec une meuf qui est polyamoureuse et qui m'a expliqué qu'on appelait ça la New Relationship Energy. Et qu'en fait, pendant les 6 premiers mois, quand tu rencontres quelqu'un, que tu tombes un peu amoureuse, on peut employer un mot moins fort, mais que t'as un crush, en fait, t'as vraiment t'as des hormones à fond, quoi. T'as la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, et tout ça, c'est des hormones qui te font te sentir hyper bien, et donc t'es un peu droguée, t'es pas tellement dans ton état normal. Et elle dit, en fait, chez les polyamoureux, on se dit, mais la règle d'or, les 6 premiers mois de la relation, tu ne prends aucune décision, t'emménages pas avec la personne, tu ne fais pas d'enfant avec la personne, tu ne quittes pas ton mec pour cette personne. Voilà, c'est la règle, parce que bah, on n'y voit pas clair. Et souvent, moi, mes plus gros chagrins d'amour, ils sont intervenus dans les débuts de relation, tu vois, les trucs comme ça, où t'es drogué, t'as pas encore, tu projettes encore 1000 trucs, la personne est un écran, en fait. Et tu projettes des trucs trop beaux sur lui. T'as pas encore vu la réalité de la relation que ça pouvait être, quoi. Donc c'est tout beau. Et du coup, ça s'arrête brutalement. Le mec en face, il te dit, oh, bah, ça va, c'est une relation courte. C'est que 3 mois. Greg, encore, il m'a dit un truc comme ça hier. Il me parlait d'une meuf. Il me disait, ouais, bah, ça faisait que 6 mois. De toute façon, c'était une relation courte. Mais moi, mais j'étais là, mais 6 mois, mais c'est... T'as
la pire d'être période.
C'est grave. Tu commences à bien te connaître, t'as encore du sexe qui est cool. Fin...
C'est vrai.
Non, c'est dur de se quitter au bout de 6 mois. Moi,
t'as raison, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai jamais le cœur brisé, que j'ai eu que des relations longues, donc tu te sépares pour des raisons qui font que
ouais. Ouais. Bah, moi,
ça
tu
aide.
Vois, j'ai pas eu le cœur brisé après, mais...
Mmh.
En tout cas, je dirais pas... J'ai eu une tristesse.
Évidemment, ouais.
J'ai été fragilisée et tout, mais j'ai pas eu cette sensation d'être... d'être explosé, quoi.
Et qu'est-ce qui a motivé, donc avec Greg, vous avez fait ce jeu, on peut l'appeler comme ça, hein, ludique et pédagogique pour les cœurs brisés. Comment est venue cette idée ?
Bah écoute, moi j'ai pour le coup eu tellement de fois le cœur brisé, je trouvais qu'il n'y avait pas des ressources...
Utiles.
Il n'y avait pas des ressources de dingue, tu vois. Soit je tombais sur les trucs de magazines féminins, genre laisser le temps passer, enfin tu vois, merci, mais en fait...
Un perdu, 10 heures trouvées.
Non mais ouais.
Ta gueule.
Tu sais, moi j'étais au fond de mon lit, enfin tu vois, en fait ça me parlait pas du tout. Et du coup je me suis retrouvée à me tourner vers des trucs, enfin tu vois... En fait t'es dans des moments où t'es tellement désespérée que t'as ta face irrationnelle qui ressurgit. Et moi, par exemple, j'ai eu la tentation de m'abonner à des sites Récupérer votre ex. Je suis allée voir des voyants et des voyantes.
On a regardé les vidéos d'Alexandre Cormon sur YouTube.
Ah, je sais pas qui c'est.
Big up à toutes les 6 qui se reconnaîtront.
C'est quoi? C'est un truc Retrouver votre ex?
C'est genre le coach en relation amoureuse le plus suivi sur YouTube avec des... Enfin, quand j'y pense, c'est à pleurer, mais dans ces moments-là, parfois, t'es pas très rationnel. Hein.
Non, mais attends, mais moi, j'ai fait que regarder de la, les télé-réalité Netflix pour voir les dynamiques, en fait. Et je me suis dit, putain, je préférerais vraiment, tu vois, lire un truc intelligent, voilà, avoir quelque chose qui me soutient, là, parce que, en fait, là, je sens que j'ai besoin de m'éduquer sur le sujet, mais je trouve pas. Et j'ai attendu de me rétablir, quand même, d'abord. Et puis après, je me suis lancée dans cette, dans cette recherche que dit la médecine, de ce qui nous arrive quand on est en rupture. En fait, ça se voit à l'IRM qu'on souffre. En fait, c'est les mêmes zones du cerveau qui s'allument que quand on nous fait mal physiquement. Combien de temps ça dure ? Pourquoi est-ce qu'on a aussi parfois mal au ventre, au cœur, vraiment à la cage thoracique ? Comment ça se fait qu'on le ressente aussi violemment ? Qu'est-ce qu'on dit la sociologie ? Est-ce qu'au final, c'est pas de l'amour, mais c'est juste que j'ai peur d'être célibataire, tu vois ? J'ai commencé à faire plein de recherches là-dessus et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ressources ultra intéressantes. Et donc l'idée, c'était de les rendre accessibles, tu vois. Et puis les bouquins, on n'est pas tous bouquins. C'est surtout quand tu vas pas bien. Franchement, t'as pas forcément envie de t'enquiller 200 pages. Donc l'idée, c'était un truc que tu peux piocher. C'est vraiment un truc, tu choisis une carte qui te parle, quoi. Et elle t'apporte une info, de quoi sourire, un exercice si t'as envie de bouger ton corps, parce que il y a pas mal de gens pour qui ça passe par le corps, en fait, d'aller mieux. Ouais, ou une info, tu vois, vraiment sérieuse, quoi, robuste, pas un truc qui sort des conseils de coach masculiniste.
N'est-ce pas ? C'est quand même mieux de soutenir des féministes. Écoute, pour terminer, j'ai envie de te parler un peu de santé mentale.
Okay.
Comme tu m'as dit que t'étais à l'aise d'en parler. C'est quoi ton rapport à la santé mentale ? Quand est-ce que tu découvres que la santé mentale est un sujet ?
Alors, moi, j'ai toujours vécu avec des soucis de santé mentale. Alors, déjà parce que ma maman en avait. Donc j'ai été confrontée très tôt à la dépression, à des crises suicidaires de la part de ma maman. Je voyais bien que c'était un sujet très stigmatisant, honteux. C'était pas quelque chose que je racontais à mes amis, tu vois, au collège, au lycée, etc. En plus, ma maman a failli perdre notre garde parce que mon père se faisait du souci, il a essayé, tu vois, de la récupérer. Moi, ça a déclenché un truc où j'avais très peur que, tu vois, cette épreuve supplémentaire pour ma mère rajoute une couche. J'ai eu très peur pour elle. Voilà. Et puis, moi-même, à partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé à développer plusieurs troubles, une grande anxiété, des phobies sociales, de la cyclothymie, donc le fait de changer très fort d'émotion dans la journée. Beaucoup de choses, honnêtement. Je me suis dit, beaucoup d'adolescentes qui font ça, quelques-unes qui font ça, je me mutilais les mains, en fait, pour essayer que la souffrance physique dépasse la souffrance mentale. Et honnêtement, venant d'une famille privilégiée, dans le sens, tu vois, ayant accès à une éducation, à de l'argent, j'ai vu des psys très tôt. Moi, j'ai vu des psys dès 13 ans, différentes psychothérapies, tu vois, tout par la parole. Mais en fait, ça m'a sûrement aidée, mais j'ai continué à être quelqu'un de vraiment troublée, en souffrance. Ma phobie sociale a été extrêmement handicapante pour ma carrière, au point que j'ai fini par faire un choix de boulot en télétravail. C'est pas pour rien que je suis allée me mettre en Bretagne aussi, à un moment. En fait, il m'a fallu un burn-out en 2020, mais vraiment grosse dépression, le truc où, tu vois, avec idées noires ultra fortes, problèmes cognitifs, j'arrivais plus à m'organiser pour faire cuire un œuf et faire cuire du riz en même temps. Tu vois, par exemple, le truc me demande... J'avais plus l'énergie mentale pour gérer cette tâche-là. Enfin, c'était un truc de malade. Problème de mémoire.
Qu'est-ce qui te fait savoir que c'est un burn-out et pas un épisode dépressif ?
En fait, c'est la même chose. Alors, burn-out, on l'utilise mal. À la base, ça décrit... J'ai fait d'ailleurs tout un podcast sur le sujet.
Trop bien, je le mettrai dans les notes.
Écoute, ça décrit en fait l'état de dépression que rencontraient les soignants qui s'occupaient à la base de toxicomanes. Et ça a été... élargi. En fait, c'est la fatigue du care.
C'est un épuisement, quoi.
C'est un épuisement, mais lié au care, à
D'accord.
la base. Okay. C'est l'épuisement de prendre en soin des gens qui vont mal. Et maintenant, on l'utilise à tort à travers, et moi, la première, parce qu'il y avait un truc, tu vois, de surmenage, d'hyperactivité, de beaucoup de choses qui se suraccumulaient. Et en fait, t'as un épisode dépressif. Voilà. C'est ça qui se passe.
C'était pendant le Covid ou c'était...
C'était avant. Attends.
Covid, c'est mars 2020.
Non, excuse-moi, c'est juste après.
Ok.
Non, je te disais une bêtise. Effectivement, c'était juste après parce qu'en fait, la nature de mon travail en fait a complètement changé aussi à ce niveau-là. J'avais X visio par jour. En plus, on a commencé à nous demander en visio tu sais, d'animer un peu pour qu'il y ait de l'ambiance, donc de montrer chez nous, de faire des sketchs et tout, et j'étais là, non mais... Bref, donc effectivement, c'était après le Covid. Et ce burn-out, donc à l'époque, je travaillais pour Apple, ça m'a mise quand même en 14 mois en arrêt maladie. Et c'est là, en fait, que je me suis posée et que j'ai pris les trucs un par un, tu vois, tous mes trucs non résolus depuis 13 ans, qui faisait que, en fait, ma vie, elle était lourde et fatigante, quoi. Que j'étais juste fatiguée. Parce que généralement, quand t'as un souci de santé mentale, tu t'es obligée de suradapter, en fait, pour être fonctionnelle. Et voilà, moi, ça faisait... j'ai commencé à travailler à 21 ans, tu vois, j'avais 38, donc j'avais pas arrêté pendant beaucoup trop longtemps. Et donc, écoute, j'ai commencé à prendre des médicaments, donc des antidépresseurs, qui ont un côté vraiment... qui permettent de gérer le trouble anxieux, beaucoup mieux que les anxiolytiques, qui souvent sont pas des bonnes choses, enfin, sont bien aussi besoin, mais sont des choses qui sont addictives, les benzodiazépines, etc. C'est vraiment pas bon à prendre sur le long terme, donc c'est plutôt des antidépresseurs. Et il y a eu un truc chouette qui s'est passé, c'est que la chimie, en fait, m'a permis de prendre un temps pour moi, déjà pour dormir, et ensuite de me réexposer progressivement à des situations que j'évitais depuis des années. Tu vois, typiquement la prise de parole en public, c'était un truc, mais c'était... j'en dormais pas pendant 3 semaines, je le faisais si vraiment il le fallait, mais tu vois, mon exposition médiatique en tant que limbe de G, mais c'était, tu vois, le débat dont je parlais tout à l'heure, mais c'est un truc, pendant 3 semaines, j'ai pas dormi, quoi. C'était terrible pour moi. Et là, avec la chimie, ça m'a donné un peu des bases pour commencer à me réexposer progressivement, etc. Et ça a été, mais fabuleux, de pouvoir reprendre un petit peu le contrôle, tu vois, marche après marche. Et en l'espace de 2 ans, j'ai réussi à tellement gérer le truc de façon chouette que j'ai réussi à faire un TED, ce qui était alors ça n'a pas été neutre, hein, ça a été un truc de malade, mais j'ai réussi à faire un TEDx, quoi. C'était parler devant 800 personnes, voilà. Bon, j'avais une vraie impression de reprendre en main ma vie, quoi. Après, je suis pas du tout en train de faire une apologie de la chimie, hein. Honnêtement, il y a 1000 façons de gérer la dépression. Pour moi, c'est celle-là qui m'a aidée. Voilà, je suis pas du tout en train de dire les médocs. Mais ça reste un terrain fragile. Et là, on est, tu vois, 3 ans après, j'ai encore des hauts, des bas, et puis je cherche encore. Après le TED, il s'est passé un truc. J'ai fait une crise d'anxiété sociale devant une personne dans un café. Tu vois, j'avais eu l'impression que j'avais terrassé mon anxiété sociale, que c'était fini après le TED. Un peu comme le porno avec mes soucis avec mon corps. Tu vois, à chaque fois, je suis là avec des solutions radicales. Et bah non, il y a un truc qui me rappelle, non, c'est maîtrisé, mais voilà, ça peut revenir et il faut que tu sois OK avec ça, il faut que tu l'acceptes. Ce que je constate, c'est qu'on est très nombreuses en fait à avoir des soucis de santé mentale, y compris depuis le Covid. Je sais que c'est des sujets qui sont très mal pris en compte dans l'entreprise. Tu vois, moi, j'étais chez Apple à l'époque, qui est pourtant une entreprise tellement progressiste. Je leur ai fait un peu un coming out avant de me mettre en arrêt maladie sur mes anxiétés sociales, demandant à être exemptée des visios, tu vois, pour faire le clown devant tout le monde, devant 200 personnes. Ça n'a pas du tout été reçu. Et je me dis que si une entreprise comme Apple n'a pas su gérer ça à l'époque, enfin, tu vois, il y a de fortes chances que ce soit un sujet où il y a tout à défricher, quoi. Donc, je me fais un point d'honneur à en parler autant que je peux pour dire... OK, voilà, en fait, c'est OK.
C'est comme une autre maladie, quoi.
Ouais, prendre des antidépresseurs, c'est pas une honte.
De ouf.
C'est, voilà, si ça t'aide à un moment, ou même si toute ta vie, en fait, ça te permet à ton cerveau de rester au niveau chimique de sérotonine dont t'as besoin, très bien pour toi, en fait, parce que, voilà, il n'y a pas d'effet secondaire. Ça peut même être neuroprotecteur, certaines molécules.
J'aime bien dire, on ne gagne pas de points bonus à souffrir dans la vie.
Mais ouais.
T'sais, parfois, il y a un truc noble à vouloir s'en sortir, et en fait, t'es là, genre... prends l'aide qu'on te donne, va voir des spécialistes et en fait fais ce qu'il faut pour aller mieux, quoi.
Ouais, mais c'est, enfin, en fait, j'ai mis du temps en fait à comprendre ce qui était si difficile dans le dialogue sur la santé mentale, notamment parce que ma famille était en grande résistance par rapport au fait que je sois médiquée, que je prenne des antidépresseurs, et c'était très inquiet, etc. Et j'arrivais pas à parler avec eux et ça me faisait beaucoup de mal, tu vois, parce que je me disais, mais là, je suis fragile, tu vois, je fais de mon mieux pour aller mieux. À la rigueur, si tu comprends pas mes choix, juste me le dis pas, enfin, tu vois, et c'est pas de me convaincre d'arrêter de prendre des médicaments si je te dis que ça m'aide, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Et ça a été vraiment un sujet pour moi, vraiment difficile, quoi. Et en fait, j'ai compris, je pense, le truc de la santé mentale, c'est que souvent, c'est un vrai continuum. C'est-à-dire que les symptômes que tu décris, la plupart des gens vont déjà les avoir vécus à un degré moindre. Je donne un exemple. Moi, mes phobies sociales, que j'ai vécues comme très handicapantes, tout le monde sait ce que c'est que d'être stressé de parler devant les gens, tu vois. Le trac, tout le monde l'a vécu. Et donc, t'expliques que t'as des phobies sociales, on dit... Non, enfin, c'est normal, t'as pas besoin de prendre des médocs pour ça. Non, mais Moi, c'est un niveau invalidant. Enfin, vraiment, pareil pour la dépression. On a tous été tristes après un chagrin d'amour et tout. C'est juste, en fait, à quel point t'es triste et à quel point, en fait, tu n'arrives plus à rien faire et ta vie, en fait, du coup, tu vois, s'effondre, quoi. Et je pense que c'est cette espèce de degré dans la santé mentale qui fait que les symptômes qu'on peut exprimer peuvent être banalisés. Si t'es pas complètement incapable d'être productive et d'être fonctionnelle dans la société, les gens comprennent pas que t'aies besoin de te médiquer, quoi. Juste, en fait, pour être confortable.
Ouais. le seul conseil que je donnerais, c'est ne les écoutez pas. Voilà, il y a que vous qui savez ce qui est mieux pour vous. J'ai quelques dernières questions pour toi.
Ouais.
Si tu pouvais conseiller aux personnes qui nous écoutent une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast, qui t'a particulièrement touché, aidé, qu'est-ce que tu recommanderais ?
Écoute, je sais que tu l'as invité, donc je vais parler de son travail. Moi, le cœur sur la table de Victoire Tuaillon m'a beaucoup touchée sur la déconstruction des relations amoureuses hétérosexuelles. Ça m'a beaucoup aidée.
Ok.
J'ai envie de citer quand même d'autres trucs. Les livres de Bell Hooks, La volonté de changer.
Qui sont pas très bien traduits, je trouve, par contre.
Bon, écoute, moi, ça m'a pas frappé.
Ah ouais?
Ah ouais, donc en fait, je suis tellement fan qu'on s'empare de ces sujets de l'intime, du relationnel, des relations hommes-femmes de façon féministe, que parfois, je suis tellement acquise au truc que tu vois. Bon, en tout cas, les livres de Bell Hooks qui se lisent vraiment avec plaisir.
Ok, bah, je mettrai aussi dans les notes pour les personnes qui nous écoutent. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que tu aimerais entendre ?
Peut-être Camille Froide-Vométry, qui est philosophe, aussi professeure en sciences politiques. C'est une femme assez remarquable intellectuellement. C'est vraiment une des, avec Manon Garcia, une des philosophes féministes françaises. On l'entend beaucoup sur un registre très intello. Elle est pointue. Hein. Je pense que ce serait intéressant de l'entendre peut-être sur un registre plus cool.
Ok, je me le note et je vais te poser du coup la dernière question du podcast. Ouais. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Je pense que j'ai envie de rajouter de la douceur sur cette expression. Et je pense que ce serait être gentil avec soi-même. Non, c'est vrai. Être un peu doux, en fait. Se prendre un peu dans les bras, au lieu de se mettre des coups de pied au cul continuellement.
J'aime cette métaphore. Merci beaucoup, Olympe. C'était hyper chouette. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, je sais que tu as écrit un livre aussi, Jouer est un sport de combat, ouais. Je le mettrai dans les notes. Mais où est-ce que tu veux qu'on redirige les auditrices ?
Bah, j'ai un site, c'est olympe2g.com.
Ouais.
J'ai un compte Insta. Olympe de G,
ouais.
Sur lequel je partage pas mal de trucs.
Je mettrai tout ça dans les notes. Et puis, écoute, j'espère à très bientôt.
J'espère aussi. Merci.
Merci à vous d'être arrivés au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors n'hésitez pas à envoyer un petit message à Olympe. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et à nous taguer en story pour nous partager vos retours. @olympe2g et @mybetterself. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right, because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.